service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour cette 15e émission du service après-vente de la F1 consacrée au Grand Prix de Singapour. Attention, histoire de se mettre dans l'ambiance, éteignez vos lumières, fermez les rideaux et profitez avec nous de l'obscurité pour faire de cette émission un podcast nocturne. Cependant, si un Grand Prix nocturne reste une exception en Formule 1, un service après-vente de la F1 qui se clôt en diurne est tout aussi exceptionnel ces derniers temps, et nous tenterons ce soir de réaliser l'exploit de finir l'enregistrement avant que la nuit ne tombe en proposant une émission quelque peu remaniée. Alors au programme de cette émission enregistrée, les yeux fermés, nous reviendrons bien évidemment sur l'actualité de la semaine et notamment sur la prochaine officialisation du départ de Kimi Raikkonen de chez Ferrari et les rumeurs persistantes sur la prochaine nuit de noces de Fernando Alonso à Maranello.
What?
Nous reviendrons forcément sur ce deuxième Grand Prix urbain de la saison. Et non monsieur, je n'ai pas oublié Valence. Si le championnat touche à son crépuscule et que Button et Brown Grand Prix s'apprêtent plus que jamais à scintiller dans le ciel étoilé de la Formule 1, nous n'oublierons pas d'évoquer la lune de miel que fut ce Grand Prix pour Lewis Hamilton, tandis que Enzo fait son repassage, et que...
Oh l'enculé. Tu vas me couper ça tout de suite.
Et que pour Rosberg et Vettel, l'obscurité singapourienne avait des relents de remake d'une nuit en enfer. Glock et Alonso en auront profité pour vivre une véritable nuit d'ivresse, le premier apportant un podium bienvenu avant de courir à domicile, tandis que le second redore le blason du losange qui aura réussi à vaincre ses démons de minuit devant le Conseil mondial du sport automobile de la FIA. Pour tout cela et pour bien plus encore, retrouvons tout de suite nos deux veilleurs de nuit préférés. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonne nuit.
Oui, c'est vrai, ah bonne nuit. Ah ouais, j'ai pas pensé. Je me suis fait chier à mettre des trucs avec la nuit. Bonjour Enzo.
Salut.
Ça va, ton petit polo est bien replacé, il n'y a pas de plis.
Quel enculé, je te dirai plus jamais rien.
Oui. Mais... Donc vous le saurez, Enzo est live de sa table à repasser.
Eh ben oui.
Donc, messieurs, le Grand Prix de Singapour, ça vous a plu dans l'ensemble?
Non.
Non. On va y revenir. Mais avant ça, qui a-t-il donc?
Le chiffre initial de Cindy.
Mais bien sûr, Eman.
Jingle!
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Le chiffre de la semaine est le chiffre 3. Attention, hein. Pas 2, ni 4, 3.
Oui, merci, on s'est compté encore.
Ne serait-ce pas ton plus petit chiffre de la saison?
C'est le plus petit.
C'est peut-être le QI de celui qui trouve le chiffre inutile. Ou bien c'est trop haut.
En même temps, c'est toi qui l'as trouvé la semaine dernière.
C'était quoi?
T'as trouvé les pizzas.
Ah bah oui, oui, mais attends, j'ai des jeunes italiens, moi. Tandis que j'ai pas des jeunes singapouriens.
Je sais pas, 3, c'est le nombre d'îles qu'il y a à Singapour?
Non.
C'est le nombre de kilomètres qui séparent Singapour de la Malaisie?
Non.
C'est une distance?
Non.
Est-ce qu'il y a une unité derrière?
Non, non, c'est 3 quelque chose.
Eh bah, c'est, il y a une unité, bon.
Non, non, mais c'est quelque chose qui...
C'est le nom... Non, a... maintenant...
Vas-y.
Non, maintenant, c'est lié à la F1, ce que je l'ai proposé. Je suis con.
Ça se trouve, pour une fois, c'est lié à la F1. Donc, je pose la question, est-ce lié à la Formule 1?
Non.
Voilà, ok. Il faut toujours s'assurer, parce qu'on ne sait jamais. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3...
C'est, le... c'est un nouveau thème.
Un nouveau thème. Donc on a
c'est
fait
sur les animaux.
On a fait la bouffe, les animaux. On a
c'est
fait...
pas sur les animaux.
Des habitants.
Ce est-ce sont des habitants de Singapour.
Mais est-ce que c'est est-ce que tu dis que c'est 3 habitants dans le sens où c'est 3 personnes qui habitent effectivement Singapour et qui sont importants dans la ville ou est-ce que c'est 3 habitants au sens décalé ou voilà genre animaux.
Non non, c'est des gens qui vivent à Singapour et ils sont que 3.
Il y a 3 maires.
Non, mais on se rapproche.
Il y a thème. 3 présidents. Il y a 3 non. Rois. Il y a 3
princesses.
Il y a
3 princes.
Bah, vous tournez autour.
Il y a 3 tribus. Non, il y a 3 quartiers. Il y a 3 villes. Il y a 3 arrondissements.
Non. Mais non, mais en plus, vous avez été super proche.
Il y a 3... Il y a 3...
Eh bien, il y a 3...
Il y a 3 assemblées.
En fait, c'est pas 3 en même temps.
Alors,
le maire est élu
il y a une rotation. Il y a une rotation de 3 trucs.
C'est pas une rotation.
Le maire est élu tous les
une 3 ans. Une permutation circulaire.
Où le maire est choisi alternativement dans les trois communautés religieuses ou communautés
non.
Est-ce que ça a un rapport avec la personne qui exerce le pouvoir?
Oui.
C'est
trois personnes de la même famille.
Il y a pas trois.
Deux. Quatre.
Alors pourquoi tu nous proposes trois?
Non, mais tu vas
comprendre. Ah bah je dirais que le pouvoir, c'est une royauté, c'est quoi?
C'est une république.
Ah merci. Eh bien, on va dire que ils sont arrivés à égalité aux élections.
Non, c'est pas ça.
Bah donne un indice.
Mais le pire, c'est que vous êtes super prêts.
Bah mais attends, on est super prêts. C'est lié au dirigeant de la ville.
Oui.
Mais c'est lié en quoi? C'est
ils sont que trois. Il y a que trois partis. Il y a que trois hommes politiques
bon,
dans le pays.
Je vais donner la réponse.
Il y a eu que trois dirigeants dans l'histoire.
C'est ça.
Ah ouais.
Depuis 1965, Singapour n'a connu que... Alors, ils sont premiers ministres, puisque le système politique à Singapour est de type anglais, donc il y a un président, mais c'est le premier ministre qui a le pouvoir. Et donc, depuis 1965, il n'y a eu que trois premiers ministres.
Wow. Mais c'est nul comme chiffre. Je veux dire, c'est pas marrant.
On veut des noms, on veut des noms. Bah là, on se va dire.
Mais attends, mais j'ai même des outils de comparaison. Par exemple, en France, sur la même période, on a eu 18 premiers ministres.
Ouais, mais faut que tu notes en président.
En Allemagne et au Royaume-Uni, 7 sur la même période. En Italie, 18. Mais bon,
c'est bizarre.
Et en Belgique, je te raconte pas.
C'est bizarre, Enzo. Je me disais, on pourrait jamais battre la Belgique.
Mais non, mais voilà, j'ai fait un chiffre, qui techniquement n'est pas drôle cette semaine.
Ah ouais, non, mais le pire c'est que même nous on sait pas quoi dire.
Voilà. Tu veux que je te dise, Shinji? Ça se voit que tu l'as préparé à 20h10.
Ah, je l'ai écrit à 20h10 parce que je l'avais déjà en tête bien avant.
Parce que avant même.
Eh ben, t'aurais dû te forcer un peu plus.
Avant même
d'en. T'aurais dû chercher autre chose.
Avant même d'enregistrer l'émission du Grand Prix d'Italie, il m'avait dit ouais, non, mais c'est bon, j'ai déjà mon chiffre de Singapour. Et c'est tout, il y a rien d'autre.
Bah après, je peux développer, mais là.
Vas-y, développe.
Sauter dessus.
Non, vas-y, développe. Hein. On a hâte d'entendre.
Vas-y, développe, on coupera.
Vous voulez connaître les noms des trois premiers ministres?
Non, moi je...
Tu veux leur. Pas savoir que sur les trois premiers ministres, il y a le père et le fils?
Ouais.
Que non. Le père a été premier ministre de 65 à 88.
Et pourquoi tu m'as dit c'est pas trois?
Ouais.
En fait, sur les trois, il y a un père et un fils, mais en fait, le deuxième, il est pas de la même famille.
D'accord.
Bah, ça aurait été bien si ça avait été la même famille, mais la trois, ça n'a aucun intérêt.
Bah, faut savoir que le premier ministre qui a été jusqu'en 1988.
Je ne dis plus rien à cette histoire.
Les États-Unis aussi, ils ont eu père et fils. On n'en fait pas tout un fromage.
Oui, sauf que imagine qu'entre 1988 et 2004, quand ils ont changé de premier ministre, qu'ils ont eu le deuxième, le premier, d'accord, celui de 65 à 88, était encore au gouvernement. Et qu'aujourd'hui, le troisième premier ministre, qui est le fils du premier, hein, et bah, premier, il est toujours au gouvernement.
T'es en train de nous dire que Singapour est une dictature.
Républicaine.
Ouais.
Eh ben, vous savez quoi? Quitte à choisir une dictature, vaut mieux choisir Singapour que le Gabon.
Je peux aussi te parler de la famille, dont une bonne partie peut...
Non, je veux dire, t'as non. Mais... Je comprends que tu aies des amis là-bas, à qui tu penses régulièrement, mais quand même.
Alors, Shinji, est-ce que tu n'aurais pas un deuxième chiffre inutile au cas où?
Je n'ai jamais dit que le chiffre inutile serait un chiffre drôle toutes les semaines.
À chaque fois, généralement, je me dis, oh, c'est un chiffre intéressant, Shinji, mais...
Non, mais faut pas se forcer non plus. Ça casse le début d'une émission quand même. Accessoirement, on propose Pi la prochaine fois.
Donc, le chiffre inutile, il est fini.
Non.
Bah, vous voulez pas écouter la suite.
Non, mais vas-y, donne la suite.
Non, je suis vexé, non.
Non. Non, mais attends, tous les autres étaient bien. Hein. Déjà, on avait trouvé 14 jusque-là, c'était.
Non, la Belgique.
Ah, c'était la densité, c'était super intéressant. Ouais, j'adore, ouais, moi.
Bon, alors, on revient sur l'actualité d'avant du Grand Prix de Singapour.
D'avant du Grand Prix?
Oui.
Tu parles bien la France.
Explique French very well. On va, comme je disais en introduction, on va essayer d'apporter quelques petits remaniements dans l'émission. Ce que je vous propose sur l'actualité, c'est qu'on parte sur un débat autour de la grosse actualité de la semaine. Et ensuite, chacun reviendra, prendra une des actualités et la développera en essayant d'ouvrir le débat. Ça vous va?
Parfait.
Parfait. Donc.
Il m'a surtout l'élevé. Hein.
Oui, voilà.
Et là, on est bien bas, quand
et
même,
après,
là.
Et après, il vient me dire que je suis vache avec Sidji. Donc, par contre, juste avant de passer à l'actualité, je voudrais revenir sur le circuit en lui-même.
Oh bah non.
Oh bah non.
Oh, oh bah non.
Oh, oh, oh. Oh, ça sent la fin d'émission, ça.
Ouais.
Ah non, non, mais je peux vous le dire dès maintenant.
Oui.
À chier. Sincèrement, faire un circuit, quitte à faire un circuit où on peut pas doubler, et, autant le faire en Hongrie. Et pas la peine de faire la nuit, quoi. Donc, aucun intérêt. Sincèrement, aucun intérêt.
Oh, c'est sévère.
Ah oui, non, mais attends. Non, parce que, regarde.
C'est vrai que sans la nuit.
Tu prends Monaco, par exemple. D'accord. Certes, on peut pas doubler plus souvent, mais du coup, comme il fait jour, bah des fois la caméra elle se met sur les terrasses, sur les bateaux. On voit du people, on voit voilà quoi, c'est plus agréable. Ouais, mais c'est quand même plus agréable.
C'est vrai qu'il faut reconnaître que le tracé de Singapour est pas forcément super super alléchant.
Parce que voir des fois le circuit vidéo, certes, on voit un grand trait blanc. Qui est éclairé, et puis on voit l'autoroute qui passe par-dessus. Ouais, c'est limite, quoi. Alors, il y a un passage qui a l'air un petit peu sympa, quand il passe sous un espèce de pont, ou je sais pas quoi. Ça me rappelle un peu quand il faisait les courses de karting, là, à Bercy. Là,
ouais, sous une tribune.
Et il passe sous la tribune.
Voilà, bah, voilà. Ça me fait penser à ça. Donc, pour une piste de kart, ça doit être sympa, mais pour la F1, je trouve ça moyen.
Moi, je suis assez d'accord sur d'abord sur la piste qui est bon, voilà, c'est une piste urbaine, voilà. Mais on est encore quand même très loin du défi que peut être Monaco avec ses changements de enfin ses virages naturels, je dirais presque à Monaco. C'est t'as aucun virage qui se ressemble, alors que là t'as des tas de virages qui se ressemblent. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est justement que c'est peut-être que pour une course de nuit, elle est trop éclairée. Tu vois les voitures.
Oui. Ouais.
Alors, ouais, mais Piquet, t'aurais été capable de rater le mur, sinon l'an dernier.
mais c'est vrai que je trouve que, à la limite, j'ai plus hâte de voir Abu Dhabi, qui va commencer le jour et finir la nuit au crépuscule, qui va traverser le crépuscule et finir la nuit. Je pense que on aura
un. J'attaque un t-shirt Ferrari là.
Donc j'ai plus hâte de voir Abu Dhabi parce que vraiment le paysage va changer. Et là c'est vrai que malheureusement à Singapour, même si on est le décor derrière est très joli, c'est vrai que par contre la piste je la trouve d'une tristesse.
Il y a
des grillages partout. Les critiques qu'on faisait sur Valence avec les grillages, on peut les refaire à Singapour. Il y a des grillages partout. Pourquoi des murs et pas des barrières? Et puis, ce qui est énervant, c'est ces espèces de gros dégagements qu'ils nous ont fait, un peu à l'image de quand on a vu le premier virage, Alonso et Weber, qui annihilent un petit peu le défi qui est un circuit urbain, à savoir qu'il faut dépatouiller et essayer de doubler entre les murs.
Voilà, moi ce que j'ai reproché, c'est si tu veux, les gars ils sont pas obligés de frôler les murs, puisque t'as un vibreur 50 cm avant le mur, et justement ils sont sur le vibreur, mais ils ont de la marge derrière quoi. Bah du coup, c'est comme tu disais, t'as plus le côté je frôle les murs comme c'est à Monaco quoi, je frôle les rails quoi.
Tout à fait d'accord.
Donc vous avez mon avis maintenant.
Shinji, toi sur le circuit de Singapour, pour rappeler un peu l'année dernière.
Oui, bah c'est un avis comparable. Le circuit est pas hyper technique, et c'est vrai que sans la nuit, est-ce que ça vaudrait beaucoup plus qu'un Valence?
Oui, parce que les décors sont plus jolis autour.
Même si moi je suis convaincu que Valence la nuit aurait une gueule incroyable, quoi.
Peut-être, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne sait pas en Europe.
Et Monaco la nuit, ce serait.
Ah, ça serait génial. C'est dommage, non, mais c'est vrai que c'est dommage de pas essayer des courses de nuit en Europe.
C'est vrai. Donc voilà, ça c'était sur le circuit. On passe à la grosse actu de la semaine. Je vous propose de parler d'ailleurs ce qui a un petit peu agité nos auditeurs sur le blog du SAV.
On est tellement habitué aux affaires.
Ouais, en ce moment c'est terrible.
Oui.
Surtout dès qu'on parle d'Alonso, c'est forcément une affaire, on se dit.
Non. C'est vrai qu'il a commencé à être habitué, ça m'inquiète. Hein. Donc ça y est, c'est pas officiel, mais
c'est maintenant. Ah non, c'est pas officiel.
C'est juste le secret le moins bien gardé de la F1.
Donc nous allons avoir une séparation entre Ferrari et Kimi Raikkonen qui pourrait intervenir dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, et l'officialisation.
Ouais, il restera jusqu'à la fin de l'année quand même.
Oui, voilà. Non, oui, voilà, oui. Mais c'est pas déclaration officielle annoncée. Et donc l'arrivée de Fernando Alonso en 2010 qui devrait être annoncée prochainement également. Ça fait plusieurs mois.
6 ans. Fin 2005.
Fin 2015. T'as toujours un problème avec les décennies, toi. C'est toujours décalé. Ça fait 3 émissions qui sont décalées de 10 ans.
Fin 2015, ça fait 6 ans. C'est 3 ans, 2 années reconductibles, plus une dernière option pour une année.
Voilà.
Ouais. Donc 6 ans.
Oui, mais théoriquement, ça fait 5 ans.
Mais non, fin 2015.
Mais non, ça fait 6 ans.
Tu as dit toi-même.
Mais non, mais de toute façon, là, vous faites des conjectures. Non, mais le...
Mais compte sur tes doigts. Si c'est pas dans tes deux têtes.
Non, je dis pas compter sur mes doigts, mais aujourd'hui les termes du contrat, c'est un contrat de 3 ans, donc 2010, 2011, 2012.
2012. Ouais.
Conductible en 2013-2014.
Voilà. Et, oui. Plus une dernière
année. Et avec encore une option.
Avec une clause qui permettrait 2015, mais moi je me fixe d'abord sur le contrat original qui est un contrat de 3 ans plus 2.
Alors compte que 3 même.
Ah voilà, compte que 3.
Soit tu dis 3, soit tu dis 6.
Ouais,
tu dis
pas 5. Oh, c'est bon, allez. D'accord, 6, allez, ça y est. Vous voulez vraiment montrer au monde que je suis de mauvaise foi, hein. C'est incroyable.
Oui.
Et là, manque de bol.
Nous, on le sait, mais faut... Nous, on le sait, mais faut que les autres le sachent.
Donc, avant tout, vous, votre... Même si on en parle depuis des mois et des mois, votre opinion sur...
Oh, des mois, tu veux dire des années?
Oui, mais dans le SAV.
Ah oui.
Votre opinion...
C'est génial.
C'est génial.
C'est génial.
Développe.
Je suis ravi. Je vois deux points positifs. Le premier, c'est quand je vois les courses qu'il a fait cette année par rapport à ce qu'a fait Raikkonen, je ne peux être que satisfait.
Ouais.
Parce qu'on a vu que c'est un gars qui lâche jamais, qui est toujours... Même s'il faut se battre pour un point, il va attaquer, il va se battre, etc. Ça, c'est le premier point pour lequel je suis content. Le deuxième point pour lequel je suis content, je fais un comparatif par rapport à Schumi. À Schumi, je ne pouvais pas le saquer quand il était chez Benetton. Et je me suis mis à l'apprécier quand il est arrivé chez Ferrari. Et je me dis, avec Alonso, c'est déjà mieux, je l'apprécie avant qu'il soit là. J'ai gagné un an.
Oh, tu t'es préparé aussi toute la saison à l'aimer. Hein.
On gagne un duo hyper bankable. Hein.
Ah, mais alors, arrêtez avec cette expression bankable, vous me l'avez sorti 3 fois lors de la dernière émission.
Ah bon?
Ah oui.
Oui, j'ai dû le dire. Moi, une fois.
Bankable à la moi. Tour de bord. Ah, si, tu l'as dit aussi.
C'est le chiffre inutile d'Enzo. On a dit 3 fois bankable.
Alors, moi, je dis que l'an prochain, Alonso physique est là, ça sera génial, quoi.
Oh, non, oh, non.
Puisque Massa arrivera pas à reconduire. Ouais,
non, mais moi, je vois quand même. C'est vrai que c'est, bon, le meilleur pilote actuel sur la plus grande équipe.
Oui. Oh, merci. Merci d'enfin le reconnaître, Shinji. Trois années de Raikkonen chez Ferrari t'auront convaincu que Ferrari est vraiment une grande équipe.
C'est le retour, c'est du moins on dit exactement la même chose que ce qu'on a dit en 96.
Ouais, c'est comparable, oui, je pense. Ah, vraiment.
C'est exactement pareil.
Donc maintenant l'autre versant, Kimi Raikkonen qui part de chez Ferrari. Juste sans évoquer ses potentielles écuries, quelles sont vos réactions, et je demanderai plutôt à Shinji qui est un fan de la première heure de Kimi Raikkonen, quelles sont toi tes impressions par rapport à la manière dont c'est fait? Est-ce que, on nous pose souvent la question sur le blog, est-ce que c'est une erreur que fait Ferrari, etc., etc.
Bah, en même temps, vu par qui il le remplace.
Oui, voilà.
Voilà. C'est sûr que ça serait quelqu'un d'autre, on pourrait dire que c'est une idiotie. Là, vu qui ils vont prendre, ça sera au moins aussi bien. Il sera quand même resté 3 ans. Il aura réussi, à avoir ce qu'il cherchait. Parce que quand il venait pour Ferrari, c'était quand même pour avoir le titre.
Tout à fait.
Non, bon, c'est vrai qu'il n'est jamais vraiment rentré dans le moule de l'équipe Ferrari.
Ouais.
C'est vrai que bon, depuis un an et demi, 2 ans, c'était pas ça.
C'est assez paradoxalement, c'est sans doute la meilleure équipe pour lui parce que c'est une équipe qui l'accepte tel qu'il est.
Ouais.
Mais que malheureusement, par l'aspect historique et très, je dirais, familial envers les fans, etc., de Ferrari, il ne s'y est jamais vraiment intégré. Et s'il a fait des résultats la première année, c'est que, je pense, effectivement, la première année, il était encore sous le charme du système et que tout le monde était un petit peu sous le charme de Kimi Raikkonen. Et que, effectivement, il est un peu sorti du système, il s'est jamais vraiment intégré dans l'équipe. Et que, voilà, lui, tout ce qu'il était content, c'est... Je pense qu'il lui plaisait chez Ferrari, c'est de sa liberté, c'est de, de pas être dicté sur sa coiffure comme on peut faire chez McLaren, etc., etc.
Ce qui est marrant quand même, c'est que c'est Montezemolo qui a tout fait pour l'avoir au détriment de Schumi.
Ouais.
Et que maintenant c'est lui qui le dégage pour avoir Alonso.
Alors, déjà, c'est ça le paradoxe, c'est que, enfin, Montezemolo, oui, il a essayé de l'avoir, mais il faut quand même rappeler qu'à la base, il a été engagé, à l'époque où Todd était encore là. C'était Todd qui était à la présidence de Ferrari. Donc, c'est déjà.
C'est pas la même chose.
Je pense que Montezemolo donne son opinion, mais, que c'est Ferrari, c'est Todd qui a dit, écoutez, en ce moment, sur le marché, il n'y a pas mieux. Et il faut aussi se rappeler qu'en 2007, quand il est arrivé, eh ben, Alonso, ça faisait déjà un an que son contrat était scellé chez McLaren.
Ouais.
Donc, bah, Ferrari s'est entre guillemets jeté sur l'autre grand pilote de l'époque qui était Raikkonen. Alors après, est-ce que Raikkonen a vraiment été adopté par Ferrari ou est-ce que Ferrari s'est toujours dit, bon, bah, Raikkonen, c'est pas Alonso, pour le moment, on a que lui.
Bah, chez Ferrari, ils se sont peut-être dit qu'ils s'accoutumeraient au moule Ferrari, en fait.
Ouais.
Qu'au petit à petit, bon, tout en restant, on se doute bien, Kimi, c'est Kimi, mais que ça se passerait mieux, tout ce qui est extra sportif, des choses comme ça, tu vois, qui comptent quand même au sein d'une équipe. Et ben, ça a pas pris. Kimi est resté Kimi. Mais paradoxalement, je suis pas spécialement triste.
T'es pas triste?
Bah non, parce que je me dis, bon, il est resté 3 ans, qu'il a réussi quand même l'objectif pour lequel il était venu. Hein, et puis, vu vers quelle équipe on pense qu'il devait aller, je t'avouerais que ça aurait été une autre équipe. Je me serais dit, bon, il commence une fin de carrière, tu sais, en commençant à aller sur des équipes plus petites.
Tu veux dire là, comme Barrichello?
Comme Barrichello.
Mais
là, je
mauvais exemple.
Ben, là, je t'avouerais que si le choix que tout le monde dit se confirme, ça me rendra très content.
Mais justement, moi, pour sa future équipe, alors, faut faire attention, parce qu'on le dit chez McLaren, mais en fait, apparemment, si on regarde bien les articles qui ont été publiés, la lettre d'intention qui aurait été signée quant à un contrat 2010-2011 aurait été signée avec Mercedes.
Ah.
Ouais, mais attends, Mercedes. Alors,
donc, effectivement, il y a des chances que ce soit McLaren. Donc, est-ce que Mercedes va peut-être pas préféré, ou peut-être même McLaren va choisir, bah écoutez, pour le moment nous on vous prend Rosberg et vous mettez Raikkonen chez Brawn.
Ouais, mais quand même, je pense que mettre Kimi à la place de Rosberg à McLaren, c'est mieux.
Pourquoi donc?
Parce que Rosberg, il est de la même génération.
Parce qu'il va mater ce petit con d'Hamilton. Pardon.
Parce que Rosberg, il est de la même génération qu'Hamilton et que s'il fait mieux, ça va forcément dévaloriser Hamilton.
Ouais.
C'est logique. Raikkonen, ils sont pas de la même génération. Et Raikkonen, ils sont tous les deux titrés. Donc, s'ils se battent, vraiment, on va pas dire, ouais, Hamilton est en train de se faire dépasser par Raikkonen. Non, on va juste dire, voilà une baston entre deux pilotes champions du monde.
Ouais.
En plus, on connaît Raikkonen. S'il y a bien un pilote qui se fout éperdument de son coéquipier, de qui il peut être, que ce soit un Nakajima ou un Schumacher, c'est bien lui.
Ouais, mais est-ce que le fait qu'il soit parti et qu'il revienne va faire on peut faire la comparaison avec Alonso à l'époque Renault, il était champion du monde chez Renault, il est parti chez McLaren, il a été repris un peu comme le Messi par Renault. Mais entre guillemets, Renault à ce moment-là n'avait que lui. Là, McLaren, Raikkonen va revenir chez lui, en sachant qu'aujourd'hui, chez McLaren, il y a un nouveau chouchou, il y a un nouveau mec
C'est certain qu'il n'aura pas le même statut, mais comme je te l'ai dit, Kimi, il s'en fout.
Mais alors, dans ce cas-là, il y va juste pour la paye. Je vois pas quel est l'intérêt sportif.
Non, il veut avoir une bonne voiture.
Ouais, bah, il veut aussi avoir une bonne paye. Je suis désolé, faut voir aussi comment.
Sans doute, voilà.
Comment il a négocié sa sortie de contrat. Apparemment, ça va coûter 44 millions de dollars à je sais pas qui, donc.
Ferrari.
Non, à Santander.
Ou c'est Santander.
Voilà, c'est Santander qui va payer.
Santander, apparemment. Voilà.
Oui, bah, j'aimerais bien qu'il y ait mieux qu'il les donne à Ferrari, hein, ces sous-là, hein.
Ouais, voilà.
Apparemment, il a un contrat en béton.
Donc c'est. Moi, c'est le problème sur Kimi Räikkönen, c'est que. Je me demande ce qu'il va foutre chez McLaren, quoi. Je comprends effectivement tout ce que tu dis, Shinji, mais qu'est-ce qu'il va y foutre? Quel est le challenge? Bah, à part effectivement, oui, avoir la meilleure voiture, mais je reste quand même convaincu que les mecs de McLaren vont plus se défoncer pour Hamilton que pour Raikkonen, qui ne leur a pas rapporté le titre, qui s'est barré chez Ferrari.
Il s'est quand même battu 3 années de suite.
Il s'est barré au bout de 6 ans. On peut pas dire non plus qu'il ait lâché McLaren comme ça.
Oui, hein. non mais, je dis pas qu'il les a lâchés comme ça, mais il est quand même parti ailleurs. Aujourd'hui, il y a un nouveau shérif en ville. Est-ce que les mecs de McLaren vont vouloir se défoncer autant pour Kimi que pour Hamilton? Moi, personnellement, j'en doute. Et c'est là où je comprends pas le calcul. Et donc, pour rebondir sur d'autres interrogations, on connaît le passif de McLaren à entretenir deux égos dans une seule équipe. Quels sont exactement les risques pour eux l'année prochaine? Que ce soit d'ailleurs pour McLaren ou que ce soit aussi pour Ferrari.
Bah, revivre 2007.
Hein. Moi, oui.
Que ce soit aussi pour Brown Grand Prix, qui va quand même aligner un autre duo assez sympathique, Button et Rosberg. Mmh. Donc,
vous voyez déjà plus Barrichello champion du monde et qui reste chez Brown, vous?
Ah non, moi. Avec 4 mois de retard après le Grand Prix, il n'y croit plus.
Eh ben, c'est jouable.
Oui, non.
C'est jouable.
Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord.
C'est le seul pour qui c'est jouable, à part Button.
Mais je pense que les prestations de Button en ce moment sont des prestations qui vont lui permettre de jouer le titre, c'est tout.
La dernière course uniquement. Hein. À Mondain, comme on a dit, il a bon bref.
Il fait le minimum. Il a, en même temps, je vais vous faire plaisir, je vais la sortir. Il a pas non plus à se sortir les doigts du cul, il a fait tout le boulot depuis le début de saison.
Ah oui, c'est vrai. Bon,
oui, il a fait le boulot quand il y avait personne pour lui barrer.
Oui, il l'a fait à ce moment-là. Voilà. Là, maintenant, il se contente de gérer, il se contente de rester derrière.
Il fait comme Alonso en 2005. Quoi.
Voilà, je pense pas qu'il ira prendre le risque d'aller chercher Rubens.
Rappelle-toi, ces 3 ou 4 dernières années, titre s'est joué lors de la dernière course.
Oui.
Ça pourrait être encore le cas.
Oui, non mais je n'écarte aucun scénario, mais dans ce que je vois de cette saison, non.
Souviens-toi, dès le premier Grand Prix ou le deuxième, je te disais que Barrichello allait être champion du monde.
C'est pas ça que t'as dit.
On peut ressortir la bande.
Hein. Magneto, cher.
Magneto, cher. Putain,
tu seras champion du monde.
D'ailleurs, je pense pas, j'en suis sûr.
Eh ben, c'est pas perdu.
Donc, revenons au centre du débat. Quel risque pour à la fois McLaren d'aligner 2 champions du monde, mais aussi pour Ferrari de mettre à côté de Massa un pilote double champion du monde sur lequel ils vont fonder tous leurs espoirs, je pense, alors que Massa sort de maladie, sort de blessure, a de grandes ambitions quand même de titre. Quel risque pour les deux équipes? Est-ce qu'on peut revoir effectivement le scénario 2007? Maintenant, c'est moi. Ouais. Ou les scénarios de l'époque Prost-Senna.
Si les deux voitures sont compétitives, ouais, ça sera 2007.
Ça veut rien dire, regarde cette année, hein, Button et Barrichello.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ça se passe bien. Hein.
C'est vrai.
J'ai plus d'inquiétude pour Ferrari que pour McLaren.
Ah bon?
Moi pas.
On sait bien qu'Alonso, il aime pas avoir un coéquipier qui va vite.
Ah bon?
Oui, mais Massa, on sait pas sa rapidité actuellement.
Hein. Oui, voilà.
Oui, mais si Massa va vite.
Donc, on a fait le tour de cette affaire, d'après vous.
Qui n'est pas une affaire.
Non, mais
je le rappelle, c'est pas parce qu'il y a longtemps que c'est une affaire.
De ce dossier.
C'est juste une rumeur.
Donc, oui, au niveau calendrier, on sait pas trop. Il y en a beaucoup qui disent que ça sera annoncé jeudi.
Oui, ou peut-être vendredi.
Moi, personnellement, je pense que on part quand même là d'annoncer Alonso chez Ferrari.
Oui.
Et je pense quand même que c'est pas le genre d'annonce que tu fais au Japon, quoi. C'est le genre d'annonce que tu fais en Italie. À Maranello.
Tu sais que c'était
au Brésil pour faire plaisir à Massa.
Est-ce que par hasard il y aurait pas moi je pense qu'ils vont attendre la semaine prochaine. Ils vont sans doute faire escale en Europe et puis se dire voilà on vous présente notre nouveau pilote, ça sera Fernando Alonso, conférence de presse à Maranello ou en Italie. Et voilà, non, toi tu crois pas?
Non, parce qu'il y a plus de journalistes sur un Grand Prix qu'il peut en avoir dans une conférence de presse organisée en Italie.
Et encore une conférence de presse en Italie avec Alonso?
Ouais, je pense. et je pense que Ferrari a beaucoup de fans au Japon. Faut pas
c'est vrai, c'est pas faux, ouais. T'as raison.
Et c'est un bon marché aussi, je pense, le Japon. Ouais. Pour Ferrari, mais en tout cas, ils ont beaucoup de fans, donc ça peut être un bon
moment. C'est quand même con qu'ils n'aient pas décalé le Grand Prix de Valence à la fin de saison.
Ouais.
Ouais.
En même temps, bon, je ne vais rien dire. C'est Valence.
Non, c'est pas pour faire. Non, mais le but, c'est pas faire plaisir aux Espagnols.
Ah bah.
Faire plaisir aux Italiens.
Ils vont être heureux quand même. Ouais. Ouais, oui. Je veux dire que c'est les mêmes qui a... C'est ça qui... Moi, ça va m'énerver parce que je vais devoir supporter Alonso.
Je suis sûr que normalement, hein, tu vas l'adorer.
Mais voilà, mais c'est ça le truc, c'est que je pense que je vais l'apprécier. Personnellement, moi, chez Ferrari, je préférerais avoir Vettel. Même si je pense que Vettel doit encore mûrir parce qu'il nous montre qu'il a... Il a par moments des absences. Mais effectivement, je vais m'habituer à Alonso. Mais dans ma tête, Alonso reste quand même le grand rival de fin de carrière de Schumacher.
De vous savez qui?
Celui qui a privé Schumacher d'un huitième et d'un neuvième titre. Et je me dis, c'est quand même, voilà, c'est faux.
Non, pas un huitième, du moins, pas un neuvième en tout cas. Celui de 2005.
Non, mais. Ferrari, il l'a détrôné, en 2005, il l'a détrôné, de la F1, donc c'était symbolique. Donc, on passe aux trois actus des animateurs.
Trois petites actus.
T'as parlé de la tienne? Bah, ouais. T'as fait que parler, là.
Chaloux et... Il est méchant, aujourd'hui.
Moi, j'anime, monsieur.
Non, mais donne-moi la tienne.
Mon actu, bah, moi, je veux bien vous donner mon actu. Moi, j'ai retenu dans l'actualité.
Ah, j'avais pas dit ça.
Qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, je disais, donne-moi la tienne, vu que j'en ai pas.
Non, je veux la garde. Mais on te laisse le temps de réfléchir. En plus, on a une évidente, hein, sérieusement.
Bah oui,
bien sûr. Qui concerne une célèbre marque française impliquée en Formule 1.
Ah, bah oui.
Et ses sponsors.
Bah, attends. Ouais. Tu vas pas parler avant de mon actu. Déjà, je voulais parler de Manor. Je voulais parler de Manor. Tu m'as dit, bah non, c'est la mienne.
Ah non.
Après, je voulais parler de Toyota. Tu m'as dit, non, c'est celle de Shinji. Alors moi, je me retrouve avec les queues de radis. Hein.
Donc, moi, sur mon actu, une actu qui n'était pas l'actu qui m'a bouleversé dans la dernière semaine, mais bon, comme il n'y a pas énormément eu d'actu depuis qu'on a enregistré la dernière mission, je me suis jeté là-dessus. C'est Campos.
Ouais.
Qui a annoncé cette semaine qu'il n'annoncerait ses pilotes que à la fin de la saison.
Oh, ça, c'est énorme, ça. Je vous annonce que je n'annoncerai.
Mais c'est surtout le discours qu'il y a derrière, à savoir que Campos a déclaré qu'il n'y avait pour lui pas d'obligation de mettre un pilote espagnol. En même temps, il a déclaré qu'il voulait attendre de voir ce qui allait se passer sur le marché. C'est l'exemple type du dilemme qu'ont les petites écuries, c'est-à-dire que les petites écuries ne peuvent pas se permettre de prendre des pilotes qu'ils payent, hein, donc ils sont obligés de prendre des pilotes payants, et ce qui laisse effectivement voir que Campos est pour le moment dans une situation où ils se disent, bah, on va peut-être pas pouvoir jouer la carte espagnole parce que, bah, si la carte espagnole ne nous permet pas de rentrer dans nos frais, eh ben, on sera obligé de prendre un Vitaly Petrov qui vient avec les pétrodollars, enfin les pétro-roubles russes. Et en même temps, il y a aussi ce dilemme de se dire, il nous faut un pilote d'expérience, et que bah cette année, il va y avoir beaucoup de pilotes d'expérience qui vont être sur le marché. On peut parler d'Heidfeld, on peut parler de Trulli, on peut parler de pourquoi pas Glock, on peut parler de Kovalainen, qui sont des pilotes qui vont être sur le marché. Et donc voilà, moi c'est surtout une actu qui m'intéressait pour ça, parce que je trouve qu'elle résume assez bien ce marché, qui est en fait un marché des transferts très très attentiste.
Bah, je sais pas depuis combien de temps tu regardes la F1, mais c'est pas une nouveauté ça, que les petites écuries n'ont pas quoi se payer des pilotes et qui prennent des
pilotes payants. J'ai jamais dit que c'était une nouveauté, je dis juste que c'est simple.
De toute façon, les choses devraient se débloquer à partir de la semaine prochaine.
Oui, voilà.
Et ben, pour rebondir, est-ce que je peux enchaîner avec mon actu, vu que ça va dans la continuité de ce que t'as dit?
Oui, vas-y. Il va nous ressortir McLaren, je le sens.
Ouais. Non, mon actualité concerne non pas Campos, mais Manor. Hop. Manor qui n'a pas exclu la possibilité d'engager Nelson Piquet Jr.
Ah.
Ce à quoi Virgin, potentiel sponsor de Manor, a dit non, pas question.
Voilà.
On n'engage pas un tricheur.
J'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé.
C'est oui.
Elle est bien, mon actu.
Elle est excellente.
Non, elle est bien.
Non, franchement, très bien.
D'ailleurs, en parlant de Virgin, on peut parler rapidement de Braun. Oui. Il y avait pas un nouveau sponsor sur la Braun.
Mais attention,
juste pour une course.
Appareil photo.
Alors, ouais, juste il y avait Canon. Mais attention, ça c'est le schéma économique de Braun cette année, c'est qu'ils ont quasiment un nouveau sponsor à chaque course. Donc c'est vrai que jusque là, c'était surtout une diversité de sponsors liée à Virgin, au groupe Virgin.
Oui.
Et là, effectivement, comme on sait que le divorce Virgin et Braun sera fait à la fin de l'année, on commence à voir apparaître de nouveaux sponsors. Donc il y a Canon qui est arrivé à Singapour et qui a dit là depuis le Grand Prix que ils avaient bien aimé, donc ils songeaient peut-être à étendre le contrat sur le long terme. Et on aura notamment au Brésil dans deux semaines, enfin dans deux semaines et demie, on aura un sponsor brésilien. Donc apparemment à chaque Grand Prix Braun se trouve des sponsors qui ramènent 250 000, 300 000 euros.
Si après ils peuvent les garder.
Oui voilà, mais je pense que
c'est surtout ça.
Je pense que Braun sait que l'avenir 2010 est déjà assuré. Hein, ils l'ont dit, mais que c'est encore le budget 2009 qui est un petit peu restreint. Donc je pense que ils vont chercher quelques sponsors par-ci par-là. Et on sait là par exemple que Canon à Singapour, ça leur a rapporté 250 000 dollars.
Ah, bah, c'est le moment d'être sponsor de Braun, hein, parce que le titre est voilà. De tomber. Ah, oui.
Donc... puis surtout, ils peuvent déjà récupérer tout ce chrono perd.
Oui.
Ouais.
Oui. Hein.
Sachant que Renault a déclaré que la fin d'un gros sponsor comme ça, il y en aura pas en 2010 chez Renault.
Non, ils vont le faire.
Fini. Avant, c'était les cigares ici, voilà. Voilà. Et c'est plutôt mauvais signe de faire une Honda. Hein.
Oui, voilà, ouais, parce qu'on sait ce que ça a donné.
Ils ont jugé qu'il n'y aurait plus de sponsor principal. La question est de savoir est-ce qu'il n'y aura pas du tout de sponsor ou est-ce qu'il y aura par contre multiplication de petits sponsors.
Moi je pense surtout qu'ils vont avoir du mal à en trouver.
Mais apparemment c'est justement ce que souhaite faire apparemment Renault, c'est faire un peu que à l'image de ce que fait Ferrari avec Marlboro. On sait que Ferrari elle a entre guillemets vendu sa livrée à Marlboro qui ensuite sous-traite les espaces publicitaires à différents sponsors. Voilà, par exemple Santander, alors c'est un truc assez particulier parce que Marlboro reste le sponsor principal et en fait il y a un accord
donc avec, à coller au nom de l'équipe.
Ils sont sponsor titre.
Il y a un accord avec Santander à l'image de ce qu'il y avait sur Vodafone. Vodafone qui avait ses logos partout sur la voiture, mais le sponsor titre c'était Marlboro. Donc là on ne sait pas encore.
Bah, on avait quand même Ferrari, Marlboro, Vodafone.
Hein, oui, voilà. Donc là, ça sort sans doute Ferrari, Marlboro, Santander. Donc c'est vraiment Marlboro, c'est Philippe Maurice qui sous-traite tout l'espace publicitaire. Et donc c'est ce que voudrait faire Renault, c'est louer son espace publicitaire à un gros sponsor qui mettrait, donc qui serait par exemple des partenaires de l'écurie, qui mettraient leur nom et en fait en mettant leur nom donnerait des pièces donc à Renault et profiterait donc de la publicité pour se faire rembourser de leurs pièces quoi. Ce qui réduirait considérablement le budget.
Ça c'est clair que leur budget va fondre comme neige au soleil.
Oui,
d'un autre côté, en payant Grosjean et puis un autre pilote moins cher qu'Alonso, de toute manière, les dépenses vont aussi baisser. Vu qu'il y aura plus Pat Simon non plus, il y aura plus Briator à payer.
Quoi qu'il se murmure que Renault aurait l'intention quand même de revoir un petit peu le budget à la hausse pour l'année prochaine, afin justement de booster l'équipe, de lui donner de l'allant et de sortir d'abord de plusieurs saisons délicates et puis de se sortir de l'affaire et de reprendre surtout la main sur l'équipe. Voilà. Shinji, t'as vu?
Bon, c'était une aparté voilà. Renault. Hein.
Mais... Shinji, t'as vu une actu?
Bah, encore au sujet d'une écurie, encore au sujet de 2010, mais là c'est plutôt inquiétant. C'est Toyota qui pourtant à chaque fois qu'il y a un constructeur qui se barre nous dit: vous inquiétez pas, nous on reste. Bon, on reste. Je sais, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va se barrer, mais on reste et qui n'a pas renouvelé ses pilotes. Alors Trulli, on s'en doutait, mais Glock, eh ben ils n'ont pas renouvelé l'option.
À force Toyota, ils voient tous les constructeurs qui se barrent, ils se disent il va rester plus que nous comme constructeurs, on va peut-être finir par gagner.
Mais
c'est pas impossible. Mais là, pour l'instant, ils ont pas de pilote pour 2010.
Mais Glock, ce que j'ai pu lire par-ci par-là, c'est qu'apparemment Glock aurait un contrat particulier où, grosso modo, Toyota le libère pour aller chercher une autre écurie. Mais que si avant une date limite, il a pas trouvé une autre écurie, Toyota s'engage à le prendre.
Moi, j'ai lu que Toyota avait pas utilisé l'option qu'elle avait sur Glock. Par contre, ça voulait pas dire que les discussions étaient rompues.
Mais est-ce que ça c'est ça, je pense que tu voulais dire, Shinji, est-ce que c'est annonciateur de...
Bah c'est peut-être une porte de sortie, pour pas être bloqué notamment vis-à-vis
parce qu'ils attendent toujours
la question du budget.
Oui, ça va être voté je crois en octobre ou novembre.
Ah mais ça se trouve en janvier ils vont nous dire oh bah merde, il y a plus de bons pilotes, bah tant pis, allez on ça, participe.
Ouais voilà. Mais en même temps aussi c'est peut-être aussi prudent parce qu'on on a vu hein, les exemples de Honda qui a largué l'équipe comme ça du jour au lendemain. On a vu BMW qui un jour a convoqué Mario Tessen, et on sait que Mario Tessen aujourd'hui l'a encore dans le travers de la gorge et qu'il leur a dit bon maintenant on arrête, on ferme, vous avez rien à dire. Est-ce que l'équipe de Toyota, l'écurie F1 n'est pas en train de se dire bon bah en attendant effectivement libérons-nous des pilotes, préparons le terrain, on sait jamais. Comme ça si jamais ça ferme, bah, on n'aura pas, comme disait Shinji, on n'aura pas les contrats assumés, etc.
Bah déjà dans le pire des cas ils savent qu'ils pourront récupérer au moins Nakano, pas Nakano,
Nakajima. Nakajima. Parce que Kobayashi, il a été, alors c'est le troisième pilote actuellement.
C'est Toyota, ils sont foutus, ils sont capables de nous mettre Nakajima et Kobayashi en 2010.
Ouais, non, faut qu'ils nous rappellent Sato. Moi j'aimais bien Sato, il me faisait rire.
Salaud. Ouais, non, Sato, oui, non.
Il est Honda, Sato.
Oui, bah, il est Honda, il est avant tout japonais. Hein. Donc, voilà, on a fait le tour de l'actualité. Avant de passer au week-end de cours, je vous propose la petite question actuelle qui passe inaperçue.
Allez, 1, 2, 3, jingle!
Jingle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actuelle qui passe inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
C'est nul.
C'est drôle.
C'est mon préféré. Je l'adore et je n'ai pas rien, c'est plus fort que moi. Donc, jingle. Vous connaissez la règle du jeu, messieurs, pour la question actuelle qui passe inaperçue. No Google. En même temps, Enzo est en train de faire son repassage, donc je vois pas comment il ferait. Donc, Shinji, pas de Google.
Je suis toujours quelqu'un d'honnête.
Je sais. Donc, je vous pose la question, vous êtes prêts?
Oui. Oui.
Attention, pour quelle raison a-t-on pu entendre parler de Nicholas Jean Carter, de Brian Thomas Littrell ou encore d'Alexander James McLean à l'occasion de ce Grand Prix de Singapour?
Ce sont des chanteurs de rock?
Ce ne sont pas des chanteurs de rock.
Ah, t'as pensé la même chose que moi.
Ce sont des sportifs?
Ce ne sont pas des sportifs.
Ce sont des journalistes. Des gens connus?
Ce sont des gens connus, personnellement, je ne les, ils sont connus, mais pas forcément sous leur nom.
Et dans le monde de la F1 ou pas?
Ils sont pas chanteurs.
Je pense pas. Ils sont chanteurs.
Ah.
Mais pas de rock.
Et ben, de karaoké.
C'est des rappeurs?
C'est pas des rappeurs.
De karaoké.
Non, pas de karaoké.
C'est pas ZZ Top.
Oh non. Bah non, c'est du rock.
Ouais, mais je sais, je demande quand même. C'est lié à F1 Rocks?
Alors, est-ce que c'est lié? Non, de mémoire, non, ce n'est pas lié.
D'accord.
Mais ils auraient pu être à FROX, mais ils étaient présents à une autre manifestation.
Ah.
Donc, vous savez, c'est des chanteurs qu'on chantait à Singapour, etc. Ce qui m'intéresse, ouais, c'est de savoir quel chanteur.
Ah, tu veux qu'on trouve le groupe original?
Ah, le groupe original.
Eh ben, c'est les To Be Free.
Non. Mais c'est dans le genre To Be Free.
Eh ben, c'est des Wet Wet Wet.
Et pas les Wet Wet Wet. Si je peux vous donner un indice, c'est un groupe de garçons et ils l'affichent.
Oh là.
Boyzone?
Pas Boyzone. Mais j'ai bien compris l'indice.
Je sais.
Men?
Non.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ouais. En fait.
Comment ils s'appellent? Attends. Non, pas les Cure?
Non.
Qui? Les Kiss?
New Kids of the Block?
Non.
Kiss?
Non.
ACDC.
Non, mais c'est, non, bon. Mais c'est un boys band.
Alors, ils chantent, à quelle époque ils chantaient? Ils chantent encore?
Ils chantent encore, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai lu ça, et ils se sont fait vraiment connaître il y a une quinzaine d'années.
En France?
Dans le monde entier. Ils ont vendu plus de 100 millions d'albums.
Les Worlds Apart?
Pas les Worlds Apart. Je vous dirais même, pour vous aider, leur nom tombe très bien pour le Grand Prix de Singapour.
Les Crash quelque chose? Les Midnight Oil?
Non. Non.
Un truc night ou crash?
Ni night ni crash.
Ouais, mais plutôt night ou plutôt crash?
Ni l'un ni l'autre.
Bah, Singapour, tu me dis.
Ah oui, c'est un rapport avec le circuit de Singapour.
Bah, à part un crash et puis night.
Y a la particularité de Singapour, c'est pas seulement qu'on s'y crash, c'est que.
Mais en ville, town. Alors, town.
Ah, c'est en ville.
Ah, et le nom est lié à la ville.
Alors, c'est pas forcément lié à la ville. C'est un circuit qui est dessiné dans les.
Rue.
Dans les rues.
Les Backstreet Boys.
Les Backstreet Boys.
Ça, je savais même pas que ça existait.
J'avais un vieux souvenir. Donc voilà, c'est l'actu inaperçu qui passe inaperçu à Singapour.
Eh ben, pas inaperçu, on l'a trouvé.
Non, mais c'est bien. Alors, il s'avère que les membres du boys band Backstreet Boys, que moi, personnellement, je pensais qu'ils avaient disparu.
Oui.
Hein, mais c'est plus les mêmes.
Oui, non, c'est, enfin, il y a eu des changements, mais c'est, il y en a un qui est parti, je crois que c'est un frère ou un cousin, non, c'est deux cousins, donc il y a un cousin qui est parti.
Ouais, non, c'est un demi-frère.
Oui, ouais, je sais
parce
pas.
Parce que moi, je suis allé récemment sur leur blog. Et...
J'adore la discussion d'experts. Donc. Il s'avère qu'ils ont réalisé leur première avant-première asiatique à l'occasion de ce Grand Prix de Singapour. Alors, c'est pas dans F1 Rocks, c'est dans une manifestation qui a lieu à part avec notamment le groupe Travis.
Ils ont quand même pas eu droit à F1 Rocks, hein.
Oui, voilà.
Travis, c'était bien, c'est bien Travis.
Ouais, moi j'aime beaucoup Travis. Et donc, ils ont fait cette tournée, cette avant-première à Singapour pour nous gratifier, asseyez-vous, de leur 7e album.
Oh, putain. Waouh!
Hein? Dont le premier single me va droit au cœur, puisque c'est son titre, hein, Right Through My Heart.
Oh.
Donc ils ont vendu 100 millions d'albums dans leur histoire à travers le monde, et on les pensait disparus au même titre que Les Filles Épicées ou Les Deux pour être libres. Mais non, puisqu'ils nous reviennent avec cet opus intitulé This Is Us. Alors j'ai même pas cherché à chercher la chanson parce que voilà, c'est pas ma cam.
C'est nous.
Voilà, c'est nous, c'est nous. Alors, c'est un peu ce septième opus, comme dit Maika qui a sorti de lui son deuxième album, il a dit que c'était l'album de l'adolescence.
Mika.
Oui, Mika, moi je dis Maika.
Maika.
Ouais, Mika, je préfère.
Mike.
Donc Mika a dit de son deuxième album que c'était l'album de l'adolescence. Je trouve que ça correspond tout à fait à un boys band qui en est à son septième album. Et attention, je ne voudrais pas, messieurs, qu'on me dise que j'appauvris le contenu de cette émission en parlant
de ces
pseudo-artistes.
Non,
je ne veux pas entendre dire que ce sont des pseudo-artistes. J'ai la preuve, ce sont des vrais artistes, comme le déclare le quatrième larron, que je n'ai pas mis dans la question, qui s'appelle Owi Doru.
Ça nous aurait vachement aidé si tu l'avais dit.
Voilà.
Oui. puisque lui, c'est le cousin du producteur. Si je me trompe pas.
Et personnellement, je ne manque pas de le citer, ce jeune homme, parce que franchement, il va faire taire toutes les langues de vipère qui disent que c'est pas des vrais musiciens. Et voici ce qu'il a cité. Nous aurions souhaité avoir composé Thriller de Michael Jackson, parce qu'aujourd'hui, leurs auteurs se font construire des banques. Ils ne travaillaient pas et la vie serait cool. C'est-il pas émouvant? Ça, c'est un vrai groupe qui pense à la musique, à l'art.
Carrément. Ouais, on veut faire un super album de la mort qui tue. Pas pour l'art, non, c'est juste pour avoir du fric.
Donc, bon, personnellement, je suis pas forcément très fan de ce genre de musique, mais au cas où que ça intéresserait nos auditeurs, sachez que vous pourrez revoir...
Déjà, savoir qu'ils sont encore vivants.
Voilà, ils sont encore vivants, ils chantent encore, ils dansent encore. Mais donc, rassurez-vous, chers fans des Backstreet Boys, puisque vous pourrez bientôt les retrouver pas très loin de chez vous, exactement le 17 septembre, à Dubaï.
Pas loin de chez vous.
Pas loin.
Pour un concert historique, puisque ça sera leur premier concert au Moyen-Orient. Vous êtes heureux, là, je le sens, vous êtes heureux de savoir.
Tu veux dire qu'en 15 ans de célébrité mondiale à avoir vendu, combien t'as dit, de millions d'albums?
100 000 albums.
Ils sont jamais allés dans ces coins-là de la planète.
Et d'ailleurs, voilà. à l'occasion de ça, Yannick vous offre dans le concours Top Position les voyages pour aller les voir ainsi que les places.
Non. Donc voilà, c'était la question actu qui passait d'aperçu. Bien évidemment, la grosse actu qu'il y avait en parallèle de Singapour, c'était F1 Rocks avec la chérie de Lewis. Oui. Hein, voilà. Moi, juste pour ZZ Top, je serai allé le voir. Pour le reste, je sais pas comment ça a marché d'ailleurs, F1 Rocks.
Bah, faut dire que le peloton était pas mal, quoi.
Ouais, c'est... Mais apparemment, ils vont reconduire l'opération sur
d'autres circuits. Oui, c'était un test. Je pense que, l'idée, c'est de le généraliser peut-être l'an prochain.
Donc, on passe à la qualification.
Quoi?
Donc, pour la qualification, je vous propose de changer un petit peu de méthode. On va procéder par un équipe par équipe, assez rapide, juste pour passer un petit peu en revue les performances de chaque équipe. Pour choisir des équipes, j'ai fait tout simple. J'ai fait la moyenne des places de chaque équipe. Et puis, on va présenter ça sous forme de vrais qualifs avec Q1, Q2, Q3.
Je sens que ça va être un peu pourri.
Non, ça va être très bien. Ça va être très bien. Alors, première équipe éliminée, d'ailleurs la seule éliminée, et c'est une surprise puisque au vu des résultats des deux derniers Grands Prix, on ne pouvait pas les attendre si bas. C'est Force India qui réalise une position moyenne sur la grille de 18. Parce que Sutil s'est qualifié 16e et Liuzzi s'est qualifié bon dernier.
C'est vrai, on les attendait pas aussi bas.
Donc c'est, en même temps, vu les équipes qu'il y a devant, ça fait peur. Mais oui, bah, on attendait qu'ils reculent, mais on a un peu espéré vendredi que Force India ça allait être pas mal.
Ouais.
Et au final, en qualification, bah ça a été loin quoi.
Bah en même temps, on les a vus rapides sur des circuits rapides.
Oui.
Et il y avait besoin de peu d'appui.
Et là, il y a besoin de.
Voilà, ils sont lents sur des circuits lents.
Normal. Il oh, y en a d'autres qu'on attendait pas aussi bas que ça.
Oui, c'est vrai. Bah justement, hein, passons-y. Donc à ceux qui sont éliminés dans notre Q2 à nous, avec d'abord Toro Rosso et une position moyenne de 15,5 sur la grille.
Ça c'est une surprise.
Puisque Buemi a réalisé la 14e position et Aguirre-Suari la 17e. Buemi, je crois a quand même bien résisté en Q1 où il s'est même glissé en 7 ou 8e position, mais je crois que il était en pneu tendre pour les autres pilotes, donc ce qui fait que
ouais. Il
était avantagé, mais en Q2, il n'a pas pu tenir. Comme tu l'as dit, Shinji, pas de surprise.
Bah non, avec les Toro Rosso.
Mais la surprise, parce que on sait pas si c'est valorisant pour Toro Rosso ou dévalorisant pour l'autre équipe.
Bah, c'est qu'avec un moteur.
Oui, voilà. C'est en même temps, c'est le même moteur et ils sont ex aequo en position moyenne sur la grille, c'est-à-dire 15,5. Ouais. Ferrari avec Raikkonen 13e et Fisichella 18e.
Ben, Fisichella, voilà.
Oui, c'est dans la moyenne des résultats de la voiture numéro 3 depuis 4 Grands Prix.
Voilà, et puis bon, Raikkonen, apparemment, il avait énormément de mal à régler sa voiture.
Il a peut-être la tête ailleurs.
Peut-être.
Tu penses? Mais c'est ça le truc, c'est que, alors moi ce qui m'a fait plaisir, je crois que c'est en Q2, c'est un peu la critique qu'on fait depuis pas mal de temps, Raikkonen, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il se pousse, qu'il se réveille,
qu'il se sorte
les doigts du cul, et on n'a pas l'impression qu'il pousse vraiment la voiture, et pourtant j'ai vu je crois que c'est un tour de qualif en caméra embarquée.
Oui, il a sorti les pneus tendres et tout pour...
Et il a fait un tour, moi franchement, j'aime bien regarder les tours comme ça, quand les mecs sont tout seuls et qu'on voit juste le tour et qu'on voit le pilotage.
Et que les commentateurs ferment leur gueule.
Voilà, et j'ai redécouvert Kimi, quoi. Ça m'a fait plaisir parce qu'il a fait vraiment un très joli tour, avec une voiture délicate et pas assez rapide, mais il était à l'attaque un peu partout, donc là vraiment c'est la voiture, quoi. On sait qu'apparemment Ferrari, ça y est, depuis Monza, ils ont juste construit les nouveaux appendices aéro pour Monza.
C'est officiel, les top 1 est arrêté.
Ils ont arrêté le développement de la F60, donc la F60 elle bouge plus depuis. Donc là c'est même plus la F60 de Monza, ça va être la F60 de Valence.
Sans doute.
Ouais.
Donc voilà, il paye clairement l'abandon du programme 2009.
Ah, ouais, c'est l'année oubliée. Hein.
Ils se sont aperçus que ça avait bien marché pour BM quand ils ont arrêté assez tôt l'année dernière.
Oui. Tu veux dire que Ferrari va annoncer son retrait en juillet prochain?
Qui sait. Ah, ça serait la révolution.
Donc ensuite, toujours exclu en Q2, nous avons, avec une position de 12,5 moyenne sur la grille, nous avons Renault. Malgré la belle performance d'Alonso qui se qualifie 6e, Grosjean plombe l'affaire chez Renault.
Ah ouais?
Puisqu'il se qualifie 19e. Bon, alors, encore plein d'excuses.
Mais il nous fait des bourdets.
Il commence à faire son bourdet.
Voilà, il est sorti en piste. Alors en plus, je sais pas, il a dû chercher. Il a dû dire, voilà, je vais le faire juste pour rire. Il est sorti au même endroit que Piqué. L'année dernière. Le même endroit, le même virage dans le même mur. Sauf que lui, il est pas allé trop loin. Il s'est vraiment arrêté de face. Voilà.
C'est peut-être son manager qui lui a demandé.
Peut-être, oui. ça a duré au moins jusque dans la deuxième séance d'essai libre, où il a vraiment pas pu prendre ses marques. Donc, c'est vrai que c'est une excuse où je comprends où il a pas ses marques. En même temps, 19e avec la Renault alors que Alonso fait le 6e temps.
Puis ça commence à... Bon, au début, on se disait, ouais, c'est la première course, c'est la deuxième.
Non, la première course, ça a été belle.
C'est vrai, en plus.
Cette première qualif, c'était la meilleure.
Ouais, voilà.
C'est vrai. Mais après, en course, bon, ça commence à s'accumuler.
On peut dire qu'il avait fait une belle course à Valence, circuit de ville.
Ouais, ouais.
Va en faire une belle ici, quoi.
Donc, alors, il y a aussi d'autres paramètres, hein, course de nuit, etc., à s'adapter, mais en même temps, c'est pas le seul. Aguirre-Suari, par exemple, n'a pas fait de faute ce week-end, alors qu'il découvrait lui aussi.
Oui, non, mais quand tu roules 5 secondes moins vite que les autres, tu peux ne pas faire de faute, hein.
Oui.
On y reviendra, mais
Ah, quoi que, non, en qualif, il est devant Grosjean.
Oui, oui.
Donc ensuite, équipe suivante, la dernière écurie éliminée en Q2, c'est Toyota, avec une position moyenne sur la grille de 11. Trulli 15e, Glock 7e, c'est à l'image des essais où Trulli a jamais rien pu trouver de correct sur la voiture et que Glock était plutôt satisfait de sa voiture. Et finalement, c'est à l'image de la course puisqu'on le sait, hein, Trulli a fait une course très moyenne et Glock a fait une super course.
Ouais, ah, c'est marrant quand on voit ces deux équipes éliminées là et alors que quand on sait le résultat de la course finale, quoi.
Ouais. C'est même assez paradoxal pour Toyota. Qui en général marche pas trop bien sur ce genre de circuit urbain et là bah ça allait mieux.
Mais c'est là où justement où on se dit que on parlait tout à l'heure de se séparer de Glock. C'est là où on se dit quand même justement sur ce genre de circuit théoriquement la voiture est pas au top. Et là le Trulli confirme que la voiture est pas au top et celui qui déchire la voiture c'est Glock.
Ouais.
Donc il y a un truc qui est bizarre quoi. Voilà, est-ce que ça c'est vient du pilote? Est-ce que
Glock serait-il bon?
Voilà, est-ce que Glock a pas tout simplement transcendé la voiture ce week-end et sorti peut-être le week-end de sa carrière en Formule 1?
Mais il a déjà fait un podium quand même.
Même si c'est pas son premier podium, il en a déjà fait. Mais est-ce que c'est pas justement le genre de course référence pour lui alors que justement on sait que depuis ce week-end il doit se vendre sur le marché de transfert.
Ah, il a fait une belle course, hein. Il l'a faite au bon moment, comme tu le
voilà.
Dis.
Donc, on arrive en Q1, comme par hasard, c'est les 5 dernières équipes, avec les 10 derniers pilotes de la grille. Ex-aequo, avec une position moyenne, on va d'abord commencer par BMW, qui s'est qualifié un peu plus loin pour les pilotes. 8,5 pour BMW, Kubica 9e, Heidfeld 8e.
Surprenant, quand même.
Alors, bien évidemment, j'ai pris le temps d'Heidfeld, le temps qu'il a fait en course, même si Heidfeld, il a dû cumuler, je crois, 35 places de pénalité parce que la voiture était trop légère,
oui.
Une fois l'essence vidée. Donc, il est allé en fond de grille, donc déjà, il perd 12 places. En plus, ils ont changé le moteur. Là, intelligent, comme ils ont plus de moteur, mais ils se sont dit, autant le changer tout de suite, ça nous coûtera rien. Comme le disait la dernière. Donc, ils prennent 10 places. Donc, ça fait déjà 22. Plus 5 places pour avoir changé la boîte. Plus, je crois, une autre pénalité pour je sais plus quoi.
Mais il devrait partir, bon, il part des stands, mais il devrait partir, 300 mètres derrière le 20e.
Ah, bah là, avec 30
avec un demi-tour de retard.
Voilà, le mec, il part. Non, mais tu sais, il part juste devant Hamilton en pôle. Et avec tout le tour à se taper, quoi.
Ça pourrait être drôle.
Donc voilà BMW qui confirme son un peu à l'image de
Ford son regard, ouais.
qui confirme son regard mais en même temps qui confirme par rapport aux deux autres grands prix où ils étaient vraiment en verve. C'est mieux que ce qu'ils faisaient avant mais c'est un peu moins bien que ce qu'ils faisaient lors des
deux grands prix. En même temps sans continuer le développement de la voiture, le fait qu'ils sachent qu'ils soient repris.
Oui.
Hein. Je dis pas qu'ils font des développements sur la voiture mais c'est vrai que peut-être ils ont peut-être plus envie de se donner.
Est-ce qu'ils ont vraiment leur place l'an prochain? Je suis pas encore sûr. C'est pas eux la 14e.
Ça sera décidé cette semaine. Cette semaine ou la semaine prochaine.
Faut soit qu'il y ait une équipe se retire, soit qu'il accorde toutes les autres équipes.
Allez, voilà. Toyota.
Mais apparemment, hein, BMW continue le développement, hein, justement pour aider un financeur et donc voilà.
Pas de coupure, hein.
Et puis montrer aussi à la FIA qu'ils méritent leur place l'année prochaine dans le championnat parce que ils auront sans doute une voiture compétitive, plus compétitive que pourront être les autres. Ça serait quand même dommage de se passer d'une équipe qui a déjà ses bases, qui est déjà implantée en Formule 1 en tant qu'équipe pour laisser la place à des équipes qui ont strictement aucune expérience. Ensuite, en quatrième position dans notre classement, Brown Grand Prix avec 8,5 de position de moyenne aussi sur la piste. Barrichello qui se qualifie 5e avant sa pénalité de 5 places pour changement de boîte. D'ailleurs, c'est un changement de boîte qu'il aurait dû faire, je crois, à Monza, mais qu'il n'avait pas fait. Et Button 12e, quoi. Voilà, donc c'est.
Après leur dernier doublé. Dernier doublé.
Ouais.
C'est pas top.
Surtout Button, hein, c'est pas top.
Mais
12e.
Ils ont très bien commencé leur week-end et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'ils sont bien partis, ils se sont dit voilà, on est bien partis vendredi matin. Et d'ailleurs dans les déclarations, c'est un peu ce qu'ils disaient. Et ensuite, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bah puisqu'on est bien partis, allons essayer d'autres choses. Et ils ont essayé d'autres choses et peut-être qu'ils se sont un peu perdus dans les réglages et qu'ils n'ont pas réussi alors qu'ils avaient un bon setup le vendredi matin, bah à améliorer le setup, juste l'améliorer. Mais c'est vrai qu'en toute façon, en ce moment, Button est peu performant en qualif et que Barrichello, malheureusement, aurait peut-être pu faire mieux sans sa sortie qui a un peu gâché la poule quand même.
J'ai reçu un message, c'est pas, ça n'a pas été mis sous commentaire, mais un message direct de quelqu'un sur mon site qui me demandait si on pensait que Barrichello avait fait exprès de sortir pour protéger sa position.
T'as vu comment il a défoncé sa voiture?
Mais je pense que d'abord, surtout ça, à la limite, il serait sorti en ayant le premier temps à ce moment-là. Il finissait ouais. plus au pire cinquième. Donc effectivement, là, il protégeait sa position. Ouais, mais là, il est cinquième.
Tu crois qu'il pouvait faire mieux?
Oui, il aurait
pu. Il était dans un tour très rapide.
Honnêtement, il aurait pu faire mieux. Malheureusement, là, il sort, il est cinquième, il va prendre cinq places, il finit dixième. Donc deux places devant Button, c'est plus la même donne. Donc je pense pas qu'il était dans cette logique de se dire je vais sortir pour assurer ma position. Par contre, je pense que s'il est sorti, c'est parce qu'il a voulu trop en faire.
Ça, on est d'accord.
Ouais.
Non, mais c'était un peu histoire de dire ouais, on va rater tout maintenant.
Tu penses qu'il a pu apprendre ça de Michael Schumacher comme il avait fait la rascasse?
Non, du tout, mais histoire, c'était plus maintenant, dès que quelqu'un va sortir, on va dire est-ce qu'il l'a pas fait exprès, est-ce que...
Ouais.
c'était plus ça l'idée.
Oh, tu es perverse.
Après du tout, c'est un de mes auditeurs.
Ouais, c'est pas Enzo qui est pervers, c'est Flavio qui l'a été en premier.
C'est vrai. Donc ensuite, dans le top 3 de nos écuries, nous avons Williams, qui réalise une position moyenne sur la grille de 7, ce qui est plutôt bon quand on sait qu'ils ont Nakajima dans l'équipe.
Ouais, je pense que c'est une des meilleures de cette année, hein, peut-être.
Oui. Pour Rosberg, oui. Je crois qu'il avait fait une deuxième place à un moment donné. Non,
oui,
c'est
ça. Oui, mais à 2-2.
À E2, non, non, c'est la meilleure.
Ouais, c'est la meilleure. Et Nakajima, il a fait combien?
Parce que il y a un moment donné dans la saison, ils se sont glissés tous les deux en Q3. Franchement, alors là, on arrive dans les trois équipes qui auraient pu jouer la pole. Franchement, pour moi, de tous, c'était Rosberg qui était destiné à la pole.
Oui, bah oui.
Ouais. Sans Barrichello, je pense que la pole, elle était pour Rosberg, parce qu'il était très rapide en Q2. Il était vraiment très à l'aise et je me souviens même avoir envoyé un SMS à Enzo lui disant tu vas être content, Nico est en forme.
Pour en reparler. Mais c'est vrai que les deux grands prix, il a été très bon sur ce circuit.
Ouais.
Il a le feeling à Singapour.
C'est vrai.
Mais à Monaco aussi, globalement, généralement.
C'est vrai. Non, t'as raison. Monaco aussi.
Alors, Monaco, on dit oui, il y habite, il connaît par cœur le circuit, mais bon.
Ouais, sa mère le faisait faire tous les matins à la route. Pour l'emmener à l'école.
Ouais. C'est mignon. D'ailleurs, c'est sa mère qui conduit dans la F1.
Oui, voilà. Donc, ensuite, juste devant Williams, nous avons Red Bull. Alors, qui est deuxième dans ce classement. Et qui, pourtant, a la meilleure position moyenne sur la piste. Hein, puisqu'ils ont une position moyenne de 3, puisqu'ils se sont qualifiés 2 et 4.
Bon, bah, alors.
Mais je les ai pas mis devant McLaren parce que c'est quand même McLaren qui a réalisé la pole, donc
un peu l'image. Tu triches alors.
Je ne triche pas.
Il fait un système à la Bernie.
Je fais un système où je garde la pole pour la fin, comme ça on donne les petites statistiques de la pole.
Non, tu triches quand même.
Oui, je triche.
En faveur de McLaren. Voyons.
je triche en faveur de McLaren. Je suis tombé bien bas. Voilà. Donc Red Bull.
Bah c'est bizarre, ils sont lents sur les circuits rapides et ils se mettent à être rapides sur les circuits lents.
Oui.
Sur une voiture qui est censée aller vite sur les circuits rapides.
Voilà. Mais c'est ça, je me rappelle encore il y a quoi, il y a 3-4 Grands Prix, on n'arrêtait pas de dire oui la fin de saison est favorable à Red Bull. Vous allez voir dans des circuits comme Monza, etc. Tout ça ils vont être à leur aise et depuis on n'arrête pas de dire
par, ouais, non, mais, par contre Singapour ils auront du mal.
Ça c'était pas un circuit pour eux quoi. Et en fait non là ils sont bons.
Je pense, ça se trouve, Adrian Newey a fait des modifs justement pour améliorer sa voiture sur les circuits où ils seront pas bons.
Ah mais trop bien.
Ils devaient pas être bons.
Ah bah la voiture marche beaucoup mieux sur ces circuits-là, mais beaucoup moins. Ouais. Voilà. Non, puis ils arrêtent pas de changer des ronds avant. Moi, ça, un coup c'est le petit museau tout fin, un coup c'est la grosse pelle à tarte. Je comprends plus.
C'est peut-être ça le problème, c'est que justement ils hésitent trop.
Ouais, voilà. Donc, et puis je finis enfin cette qualification sur, alors c'est pas la meilleure équipe du plateau, mais bon, ils ont Kovalainen, McLaren, avec
Hamilton. Ça va changer l'an prochain.
Ah yeah, alors voilà.
J'ai senti, je connais très bien Gigi, et j'ai senti dans sa phrase un élan de satisfaction.
Shinji, je pense qu'on va pas pouvoir te garder l'an prochain.
Hamilton pole position, bien évidemment Kovalainen finit dixième. Voilà.
Normal.
Voilà, no comment. C'est Kovalainen d'ailleurs qui plante les statistiques.
Ouais.
Donc voilà, pole d'Hamilton. Moi, j'ai dit, hein, moi personnellement, il a hérité de la pole plus qu'il ne l'a gagné. Même lui-même était surpris.
Ouais, c'est.
Alors même s'il il s'agit pas d'évaluer la pole d'Hamilton qui a été très bon
tout le week-end. Il était en tête.
Voilà, il a été très bon tout le week-end. Il a été assez constant. La McLaren a très bien.
C'est une McLaren.
Elle tourne bien la McLaren en ce moment. Donc,
ah, ça me fait mal au cul.
Normalement, ça va. Je viens de repasser mon t-shirt McLaren. Ah, c'est pas grave.
Ah, enfin, tu révèles ton vrai visage. Donc, ça c'était pour la qualif. Passons directement à la course. Et là, la course, nouveau changement. Hein, pour rendre ça plus dynamique, pour rendre
voilà.
Ça plus...
Voilà, Red Bull, ils changent leur aileron. Nous, on change les rubriques.
Voilà. Hein, donc, on va partir sur l'idée.
J'espère qu'on aura plus de réussite que Red Bull.
Oui, voilà. Oh, dis-moi. Ouais. Voilà. Faut savoir transformer l'essai, comme dirait l'autre. Donc, pour la course, bah, tout simplement, on a eu l'idée, c'est de reprendre le classement du SAV. D'accord? Sauf que là où on faisait un podium, maintenant, on fera les 8 premières places.
Donc, un on classement va définir. Extent.
Voilà, on va définir notre top 8 à nous, hein, et puis on donnera à chaque fois, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point. Bon, pour cette année, jusqu'à la fin de l'année, on va quand même garder notre système de classement des trois. Mais l'année prochaine, si ce système-là fonctionne bien dans l'émission, eh ben, on aura un classement complet avec les 8 premiers pour chaque course. Voilà. Pour raconter les coulisses, il n'y aura plus de débat sur est-ce qu'on met un tel premier ou un tel deuxième. D'accord? Puisque chacun d'entre nous avons fait notre petit classement en secret, on l'a mis en commun et on a mélangé tout ça grâce à des formules mathématiques très compliquées. Hein.
Comme une salade chez McDo.
Voilà, des additions, on a fait ça.
À savoir, ce que dit Yannick, bah, c'est coefficient 10. Voilà. Ce que dit Shinji, coefficient 5. Et moi, 1.
Voilà. C'est assez réel.
Patron.
Donc, j'ai rétabli le classement. On a 9 pilotes retenus. Donc, il y en a un qui ne marquera pas de points. Et je suis triste parce que c'est mon pilote que moi j'avais choisi pour la 8ème place. C'est Nakajima.
Ouais.
Voilà. Non,
n'en parlons pas.
On parle.
N'en parlons pas.
On parle de tous les pilotes qu'on a retenus. On a quand même une petite pensée pour eux. Puisqu'on va sans doute parler un peu plus des autres. Moi, Nakajima, je l'ai juste choisi parce que, alors, j'avais le choix entre Nakajima et Kovalainen.
Ouais.
Même si certains ont pensé Weber. Je ne comprends pas.
On en était à retenir que 8 pilotes. Tu me parles de Nakajima et maintenant tu parles de Kovalainen. On en était à 10.
Non. Je suis juste en train de dire que moi j'ai hésité pour la 8ème place, j'ai hésité entre Nakajima et Kovalainen. Voilà. Oui. Et j'ai trouvé que Nakajima a d'abord fait une plutôt bonne qualif. Qu'en course, il n'a pas été brillant, je crois que d'ailleurs qu'il rentre même pas dans les points dans la course, mais il n'a pas été mauvais.
Il reste devant Kimi. Hein.
Voilà, il reste devant Kimi, et c'est justement pour ça que je voulais le garder, c'est qu'il a quand même pas mal résisté à Kimi, même si Kimi a déclaré après la course qu'il avait tenté, puis qu'après il avait renoncé, et qu'il avait dit, bon bah, de toute façon, je peux pas le chercher. Donc voilà, c'est ce que je voulais saluer, même s'il ne rentrera pas dans ce classement, puisqu'il est 9ème avec un seul point, le mien. Donc ensuite, en huitième position, nous avons un pilote qui va marquer un point, et je ne sais pas pourquoi, puisque c'est vous qui avez voté pour lui, c'est Weber. Pourquoi Weber? Pourquoi Weber? Je ne comprends pas.
Ben pourquoi pas? Bon, il fait une course solide jusqu'à son problème de frein.
De frein, ouais.
Et puis, bon, son abandon, c'est pas une erreur, c'est un problème mécanique, et il le subit plutôt qu'autre chose, et voilà.
Course solide, mais par rapport à Vettel.
Je veux dire, on voit. Ouais,
ah bah non, bien
Vettel,
sûr,
par Vettel, on verra qu'il est plus haut dans le classement. Mais quand on voit, je pense que quand on voit le ravitaillement, même avant le ravitaillement, on voit qu'il a un problème sur les freins parce que il y a plein de fumée, de poudre de carbone qui s'échappe à chaque freinage.
Et puis ils ont même eu un problème, je crois, au ravitaillement avec la roue qu'ils avaient. Enfin, il y avait un problème. Ils ont vérifié quelque chose.
Tout à fait. Et pourtant, il reste sur la piste. Il continue. Il renonce pas pour autant. Et voilà quoi. Donc
et
je trouve ça.
C'est bien qu'il attaque.
Oui, aussi. Ouais. C'est qu'il va trop vite ailleurs.
Mais apparemment, apparemment, il y avait aussi un problème sur la, sur, même si on n'a pas eu de news depuis, mais il y avait peut-être aussi un problème sur les freins des écuries Red Bull, puisque on a vu, quoi, un tour après, les deux, se remettre au stand, et pour des problèmes de freins.
Et on a prévu.
Alors, officiellement, ils ont dit que c'était pas pour la même raison. Mais bon, l'enchaînement
des choses fait que.
Comme par hasard, les deux rentrent au même moment.
Pourtant, on peut pas dire que Algarcieri, ce soit parce qu'il soit allé trop vite et il devait freiner fort. Hein.
Non, mais c'est toujours mieux que Grosjean qui a abandonné sans problème de frein au bout de deux tours. Alors c'est pareil. C'est l'un des autres mystères de ce week-end. C'est d'abord Grosjean qui met environ 6 heures.
Douzième pilote dont on parle.
Voilà.
Ah mais on a grandi un petit peu quand même. Et en course, il a un problème depuis les qualifs avec ses freins. Et en course, bah Renault, ils ont toujours pas trouvé. Je suis sûr que si c'était sur la voiture d'Alonso, le problème il aurait été résolu en 2 heures. Donc ensuite, nous avons classé en tant que groupe. Et là, tout le monde l'a mis en 7e position. Donc il marquera 2 points. Puisque Shinji, non. Enzo et moi-même l'avons mis en 7e position.
Il marquera rien du tout, vu que là, on va continuer à garder que 3 points. Que
ouais. Trop. De quoi? Oui, non mais... moralement... ne me cherche pas, Enzo. Je vais me passer. Donc, Rubens Barrichello, qui finit selon notre classement, nous, 7e. Moi, j'avoue, je l'ai mis à cet endroit-là parce que ça me faisait chier de le mettre après, avant Button. Et qu'il y en avait tellement d'autres avant que j'ai mis 7e.
C'est un peu ça, ouais.
Donc, voilà. Au niveau course, il a pas été très, je m'attendais quand même à mieux de sa part alors qu'il a gagné à Valence. Voilà.
À Monza aussi, hein.
Ouais, mais bon, à Valence,
c'est. Oui, à Valence, c'est le même circuit, hein.
Mais voilà, je suis un peu déçu, je sais pas.
Ouais, il a quand même mis sa voiture dans le mur, donc peut-être que ça refroidit un pilote quand même, un peu.
Ouais.
Ouais.
La Piquette, ça leur refroidit un peu.
Oh non, Piquette, il leur demande, je suis sûr. Chaque Grand Prix, lui, voulait se foutre dans le mur. Ah d'ailleurs,
c'est ouais, à chaque fois que je me fous dans le mur, je prolonge d'une année.
19 ans chez Renault, ouais. Donc ensuite, dans le classement, un autre pilote sur lequel nous nous sommes tous entendus, mais c'est type magnifique ça,
wow.
C'est Fernando Alonso, qui finit, alors c'est drôle parce que il va finir au classement, dans notre classement à nous, il va finir en 6e position, même si chacun d'entre nous l'avons tous mis 5e.
Oui, mais à propos.
Voilà, c'est des questions de moyenne en fait, voilà.
Et ça se trouve, la même course l'an prochain en volant d'une Ferrari, il finit 2e.
Oui, mais voilà.
On lui met en 2e place, quoi.
C'est vrai que là, il a quand même souffert de, il avait fait un bon grand prix, hein, un grand prix à la Alonso depuis pas mal de temps. Moi, vous savez très bien que j'aime pas forcément applaudir les mecs à chaque fois qu'ils font un bon grand prix, c'est un petit peu leur boulot. Surtout quand c'est Alonso.
Et Nico.
Et là, c'est vrai que malheureusement, bah, il est classé lointain malgré sa performance parce que devant, il y a eu d'autres pilotes. Qui était bien meilleur, et c'est vrai que, faut être honnête, il fait une 3e place, mais il profite surtout des erreurs de Vettel,
ouais,
et de Rosberg, et voilà. No comment?
No comment.
On passe au 5e, alors là, 5e, il y a des petites polémiques. Ah. Va y avoir débat, parce que Shinji et moi-même l'avons mis en 6e position, mais Enzo, tu l'as mis en 2e position.
Mais de qui me parle?
De Button.
Ah, Button. Bah parce que son dernier relais, il fait ce qu'il faut pour passer Rubens. Et voilà, et il assure le maximum, il reprend sur son principal rival. Et globalement, bah c'est le grand, du moins. Bien que je sois persuadé que Rubens puisse encore gagner, je pense qu'il prend une sacrée option pour le titre quand même.
Ouais.
Ah oui, oui, sans aucun doute.
Et puis, ce qui est drôle, c'est que dans la performance, je crois qu'il a quand même collé presque 12 ou 13 secondes à Rubens vers la fin.
Ah oui, c'est impressionnant. Quoi.
On a retrouvé un peu l'équilibre des forces qu'il y avait chez Brown en début de saison, quoi.
Mmh. Moi, j'ai retrouvé le Button du début de saison, un peu. Autant il m'a pas épaté à Monza où pourtant il a fini deuxième, autant je trouve que là il a fait une bien plus belle course parce que c'était loin d'être gagné. Puis attends, en partant, faut voir qu'il part 13e quoi.
Il part 13e et en plus, ce qui est à signaler aussi, c'est que c'est quand même un pilote depuis plusieurs semaines qu'on dit qu'il va pas résister à la lutte au titre, qu'il a pas le mordant, qu'il a pas. Et en fait, il montre qu'il y a pas besoin d'être mordant ou d'être agressif, il suffit juste de bien calculer. Il fait ce qu'il faut faire au bon moment, voilà.
C'est ça.
Et voilà, moi c'est pareil, moi il a pâti du fait que j'ai mis plusieurs mecs devant, mais je voulais impérativement mettre Button avant Barrichello parce que je trouvais que moi j'ai retrouvé le Button qui m'a fait plaisir au début de saison et qui en course, qui était aussi joli à voir en course que en caméra embarquée. Alors que c'est vrai que ces derniers Grands Prix en course n'étaient pas aussi chouettes à voir que ce qui peut être chouette à avoir regardé en caméra embarquée.
Ouais.
On passe au suivant.
Mm-hmm.
Bah le suivant c'est Vettel. Un peu à l'image du classement, du vrai classement de la course, hein, où Vettel a fini devant Button. Alors là, Vettel, il y a des destinées diverses. Toi, Enzo, tu l'as placé en 6e position, Shinji l'a mis 1er et moi, je l'ai mis 3e.
Oh, dis donc.
Ouais. J'ai beaucoup aimé sa course au début. Et en fait, c'est le problème, c'est sa pénalité qui nique tout, quoi.
Ouais. Mais moi j'avoue que c'est sa pénalité qui a fait que
que tu l'as pas mis en premier.
Voilà, je l'ai mis j'ai pas mis en deuxième parce que je savais qui je voulais mettre en premier mais je me suis dit non, tu mets pas deuxième, il a fait une là pour le coup, c'est vraiment sa faute. Donc voilà,
Ah, c'est marrant parce que celui que tu vas mettre premier, pourtant c'est encore plus de sa faute peut-être.
Oui, mais non, j'ai une opinion différente. Voilà, mais il a voulu trop attaquer pour se dire je passe devant Hamilton. Il lui collait quand même bien au train depuis le début, même si Hamilton dit qu'il a joliment contrôlé la course. Je pense que effectivement il a voulu se faire une soumise quoi, attaquer à fond dans l'entrée des stands et puis malheureusement je crois qu'il c'est 1,4 km/h l'excès de vitesse.
Oh là là, 1,4.
Voilà. Et il perd, il prend un drive-through, il perd 25 secondes pour 1,4 km/h.
N'est-ce pas un peu excessif?
Voilà.
Enfin, c'est un autre problème.
Moi, je dis, il faudrait qu'on calcule le nombre de secondes et qu'on lui demande de ralentir pour qu'il compense le nombre de secondes en piste.
Bah, surtout que quand, non, rien.
Non, rien, ok.
Non, voilà. C'est donc, pas lui, en fait, je confondais.
On va arriver à ce qui va être notre podium, hein, puisque on reste quand même si on change un peu le système de classement, on va ne garder que les trois premiers pour le classement du SAV. Glock, 3e. Alors pareil, Glock des destinées diverses. Shinji et moi nous entendons pour le mettre en 4e position. Alors Kenzo, tu le mets en vainqueur moral du Grand Prix.
Ouais.
Il a fait une très belle course, oui.
Il a une Toyota.
Ouais, il a une Toyota, là, quand même.
C'est vrai que
la
c'est
Toyota,
un truc
c'était,
en sa faveur, ouais.
C'était l'une des quatre équipes en forme au début de saison aussi.
Oui, mais pas dernièrement, quoi.
Oui, voilà. Je suis d'accord.
C'est comme si tu disais Ferrari était une des voitures en forme l'an dernier.
Voilà.
Non, mais en fin de saison dernière.
Voilà.
Et puis, quand on a débuté la saison, ils étaient pas en forme, hein. Donc, ouais. Ça veut rien dire. Ça change tellement vite, la F1.
Mais en plus, c'est comme on le disait tout à l'heure en qualification, c'est surtout par rapport à son coéquipier. Il a dominé dans tous les secteurs.
Il a survolé.
Moi, je sais que je tenais à le, comment ça s'appelle? Je tenais à le mettre, avant Alonso parce que ce qu'il a fait comme boulot en piste, à l'image de ce qu'a fait Button par rapport à Barrichello, il s'est vraiment déchiré en piste pour finir devant Alonso, au point qu'à un moment donné Alonso dit non, de toute façon on cherche pas à avoir Glock, hein, on contrôle la course, puis voilà, troisième place c'est parfait.
Ouais.
Donc voilà. Dans le classement, il est ex-aequo. Ah. Je me rends compte ça d'ailleurs, c'est bizarre, il est ex-aequo avec Hamilton. On pourra peut-être même lui me donner la deuxième place ex-aequo. Donc il est ex-aequo avec Hamilton, alors que Shinji et Enzo ont mis en troisième position et que moi j'ai mis deuxième. Pourquoi en troisième position? Parce qu'il fait quand même une course sans faute, qu'il contrôle assez bien.
Parce qu'on en a mis deux devant.
Parce que les deux autres nous ont plus impressionnés.
Non mais c'est tout.
Ok, il n'a rien dit donc.
Okay. Question con, réponse con.
Hamilton, il gagne sa course en qualif en fait.
Oui,
complètement.
Avec le Kers en qualif, même s'il fait ce qu'il faut faire en course. Mais c'est d'ailleurs lui le déclare. Il dit nous, on avait quasiment course gagnée le samedi soir parce que en étant en pôle avec une stratégie plus lourde que les mecs qui sont derrière, donc c'était Rosberg et Vettel qui était un peu plus léger que lui. Donc il était garanti de ressortir à chaque fois en tête. Avec le Kers au départ, il y avait quasiment rien à risquer.
Il a fait la course d'un pilote qui part de la pole, quoi, ni plus ni moins.
C'était, étant donné que tout le monde avait la même stratégie contrairement à Monza, oui, voilà quoi.
Donc la question c'est entre Hamilton et Glock, lequel mérite d'être deuxième? Parce qu'on a quand même deux ex-aequo, est-ce qu'on laisse Hamilton deuxième, Glock troisième?
Laissons-les égalité.
Bah oui.
Tu mets deux points à chacun, puis basta.
Ok, donc je laisse à égalité. Et donc le vainqueur moral pour nous de ce Grand Prix. Et attention, alors là il y a une énorme surprise. Je vais d'abord commencer par dire que Shinji l'a mis en deuxième position. Donc voilà, là il n'y a rien de surprenant. Mais le plus surprenant c'est que moi, qui plusieurs fois cette saison ai fait le genre de mec pas très convaincu par Rosberg, je l'ai mis vainqueur moral de la course. Tandis que Enzo, qui est un fan de Rosberg, l'a mis en quatrième position. Qu'est-ce qui nous arrive Enzo?
Bah moi j'estime qu'il a quand même fait une erreur. Ouais. La sortie des stands, c'est quand même une erreur. Bah voilà, quand on veut gagner un grand prix, surtout son premier grand prix, faut en faire aucune, quoi.
Ouais, mais la sortie des stands, elle est quand même très particulière, parce que.
Oui, non, mais d'accord, d'abord... mais je veux dire, il a trois jours d'essai, il la connaît maintenant, la sortie.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais après, je pense dans l'élan de la course, et puis. C'est quand même un endroit très particulier où c'est un peu d'ailleurs la critique qu'on pourrait faire, c'est qu'ils auraient très bien pu faire une ligne des stands avec un muret.
Hein, là, ah oui, t'as raison, il aurait fini dans le mur.
Non, mais avec un muret, juste parce que, en fait, le problème de cette ligne des stands, c'est que comme les voitures passent, la poussière, elle le propulse sur le côté. Et à cet endroit-là, sur le côté, bah, la poussière, elle va sur la ligne des stands. Donc c'est une ligne des stands à cet endroit qui est très poussiéreuse, donc très glissante. Et c'est pour ça que, moi personnellement, j'ai tendance à ne pas trop tenir compte de cette erreur, même si c'est une erreur de pilotage. Mais en plus, il a fait l'effort de revenir dans la pit lane et tout. Mais moi, c'est surtout pour la qualif, pour le fait que je pense qu'il aurait été en pole, et pour le fait qu'en course, il fait un très beau départ sur Vettel. Que...
Et le pire, il l'avait annoncé en plus, qu'il avait doublé Vettel.
Oui, voilà, donc et sans être réellement très menaçant sur Hamilton, il lui a quand même mis une belle pression, il est resté à distance et tout, c'était moi honnêtement, il m'a fait plaisir.
Même si mais moi aussi il m'a fait plaisir. Oui, mais il a pas gagné.
Ouais. Ah, c'est pour ça que t'es énervé.
Non, j'étais pas énervé,
il va bien finir par la gagner cette course à Singapour quand même.
Ah, il est maudit le pauvre.
Ça serait bien qu'il fasse gagner Williams. Williams lui a donné sa chance, je pense qu'ils ont toujours fait le nécessaire pour lui.
Oui.
Ils sont prêts à le garder.
Il a été fidèle plus qu'il n'en faut, hein, avec Williams.
C'est vrai.
Complètement. Mais justement, ce serait un beau cadeau qu'il pourrait leur rendre, ce serait sympa. Ça serait sympa, quoi.
Je pense quand même que c'était sa dernière opportunité, comme cette année, de...
Oui, après, on n'est pas à l'abri de circonstances exceptionnelles.
Voilà.
Hein,
ouais.
Juste pour s'amuser, comparaison avec le classement des auditeurs à ce jour sur le blog du SAV, www.savf1.fr.nf. Donc les auditeurs, au général, nous ont mis Rosberg vainqueur devant Hamilton.
Ouais.
Ensuite, Alonso troisième. Donc ils sont beaucoup plus alonsophiles que nous alors qu'il va signer chez Ferrari. Donc on devrait...
Ouais.
On va attirer en haut du monde alors.
Vettel quatrième, Glock cinquième. Weber 6e, Barrichello 7e, Button 8e, et les pilotes non classés, c'est Raikkonen, Kubica, Nakajima, Kovalainen, Buemi. Tout d'un coup, je me sens moins seul, il y en a un qui a voté pour Nakajima.
Ils sont plus gentils sur Alonso et plus méchants sur Button.
Ouais, c'est drôle, hein. Donc, au classement du SAV, version 2009.
Ouais.
Donc, ça nous laisse Button en tête avec 21 points, devant Vettel, à savoir que Hamilton se trouve à la 4e place avec 12 points, que Rosberg monte à la 8e place. Non, 7e place, effectivement, 7e place.
Ça doit être sa place au championnat du monde, d'ailleurs.
Avec 8 points. Oui, ça doit pas être très loin. Et,
il était 6e devant Hamilton, mais Hamilton, avec sa deuxième victoire, je pense qu'il lui est passé devant.
Voilà. Et Glock, donc, qui avait quand même empoché 5 points en Malaisie.
Mmh.
Avec ces 2 points, bah,
c'était ça son podium déjà.
Donc voilà.
Oui.
7 points.
C'était un demi-podium.
Voilà. Là, il a vraiment des points complets. Donc, il a 7 points dans notre classement et il est ex-aequo avec Kimi Raikkonen, 8e.
Oula.
Voilà. On passe au sondage du fait marquant de la course.
Donc, le fait marquant du Grand Prix d'Italie. Premier, les tifosi qui acclament Raikkonen sur le podium. Et ils vont plus le faire très longtemps. Ah, 67%, 14 votes.
L'Italia. Ensuite, en deuxième position.
L'accident d'Hamilton dans le dernier tour, 19%, 4 votes.
Ouais. Enfin, 40 000, hein.
Ouais. Et donc, troisième, les Red Bull qui perdent leurs espoirs de titre, 14%.
Alors, moi, j'ai pas voté ce mois cette année.
Alors, non seulement je suis super fier de ma victoire, mais en plus, je suis content parce qu'elles ont eu les derniers.
Mais j'ai pas voté.
Oui, mais t'aurais été que dernier ex aequo avec Shinji, donc.
Mais non, parce qu'il aurait voté deux fois.
Bah, ah oui, c'est vrai.
Au moins.
Donc, alors, fait marquant de ce Grand Prix de Singapour, selon vous, donc on commence dans l'ordre, Enzo.
Eh ben, c'est les qualifs, la dernière séance de qualifs qui va pas au bout. Je viens de l'inventer, là, c'est pas mal.
C'est chouette.
Shinji.
Je dirais le crash Sutil-Hetfeld. Enfin, surtout le crash de Sutil.
Ah, intéressant.
Ouais. Qui a causé quand même le premier abandon d'Hetfeld depuis, une éternité.
Oui, c'est vrai. Il était sur une série de combien?
Son dernier abandon, c'est le Grand Prix du Japon 2007.
Ah ouais.
2007, hein.
Ça fait deux
2007.
Ans.
Alonso était sur McLaren.
Oui. Donc, moi, je vous proposerais, tout simplement, même si on pourrait être tenté de parler de Vettel, de la tête de course, je dirais simplement Button. Button, non pas le fait qu'il marque un pas supplémentaire dans le gain du titre, mais le fait tout simplement que sur sa course, il assure la course, il joue les petits points.
Il joue les pissiers.
Voilà, oh, merci. Oh, ça va me faire gagner, ça.
Mais c'est négatif de dire ça. Hein. Tandis que toi, c'était positif, la façon dont tu le disais.
Oui, mais c'est pas grave. On espère que les gens le prendront positivement. Donc, pour voter pour le sondage du fait marquant de la course, hein, vous connaissez le site www.savf1.fr.nf. Donc, Shinji, les podiums du championnat.
Donc, déjà, pour les pilotes. Donc, Weber ne peut plus être champion du monde.
Ouais.
Il ne reste donc plus que Button, 84 points.
Ouais.
Rubens Barrichello, 69 points, il y a 15 points d'écart.
Yes.
Et Vettel, 59 points, là ça fait 25 points. Hein.
Ouais, bon.
Va falloir aller chercher quand même.
Ouais.
Et donc chez les constructeurs, Brawn, 153 points et Red Bull Renault, 110 points et demi. Et alors voilà. Si je prends l'excellent article sur F1 Central.
Ah oh oui, c'est vrai qu'il est très bon.
Les quelques scénarios qui prônent GP d'être champion au Grand Prix du Japon.
Ouais.
Donc, si les pilotes font un doublé.
Forcément.
Juste pour. Il faut quand même dire à la base que pour Button, il faut qu'il marque plus de 5 points par rapport à Ruben Barrichello et qu'il n'en concède moins, qu'il n'en concède pas plus de 5 par rapport à Vettel. Voilà.
Ouais.
Mais ça reste quand même assez compliqué hein, pour Button.
Pour Button seul. Pour Brawn, oui, ça, c'est plus probable que le titre constructeur tombe à Suzuka. Sinon, si les pilotes Brawn montent tous les deux sur le podium et qu'un seul pilote Red Bull entre dans les points, là, ça devient déjà un peu plus compliqué.
Voilà.
Si les pilotes Brawn finissent devant les pilotes Red Bull Racing, un seul pilote Brawn GP pourrait même suffire en fonction des positions. Ça veut quasiment rien dire, cette phrase.
Ça veut dire des choses.
Ça veut dire tellement de choses.
Je suis sûr que le mec qui a écrit cet article avait une idée très précise, mais qu'il n'a pas forcément exprimé de façon très claire.
Si le Red Bull abandonne ou ne finissent pas la course, peu importe le classement des Brawn.
Ouais.
Donc, faut qu'elles finissent. Avec leur problème de moteur, ça par contre.
Ouais, voilà.
Si un seul pilote Red Bull rentre dans les points et que le deuxième pilote ne fait pas mieux que la troisième place, peu importe le classement des Brawn.
Voilà.
Là, on commence à rentrer dans les calculs.
Ah, les calculs super compliqués.
Si les pilotes Red Bull sont 4e et 8e, peu importe le classement des Brawn. Si les pilotes Red Bull sont 5e et 7e, peu importe le classement des Brawn. Est-ce qu'il est aussi question de phase de la Lune, de coefficient de marée, de signe astrologique? Non, il n'y a rien qui rentre en compte aussi?
Non. Une petite diarrhée passagère peut-être pour Button, mais
Je vous dis, dès le premier tour, de toute manière, TF1, les commentateurs nous diront, alors si ça reste en l'état, alors Brawn marque tant de points, machin.
Mais il y a moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'Abu Dhabi, ce soit un Grand Prix de gala. Hein.
Bah, en même temps, c'est aussi pour ça qu'il est là. Hein. Donc, messieurs, je vous propose, parce qu'il a peut-être il vous a peut-être manqué quelque chose dans cette émission.
Il n'y avait pas une question rétro, un truc dans le genre?
Vous avez pas eu votre petite question historique?
Ouais, mais en même temps, Singapour...
Mais c'est pas grave, j'ai quand même une petite question historique, donc avec un petit...
Jingle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Messieurs, j'ai pas une, mais deux petites questions historiques qui sont très liées. Alors, me direz-vous, comment faire une question historique sur le Grand Prix de Singapour?
Comment fait-on une question historique sur un Grand Prix de Singapour?
Wow. Bonne question, et ben on n'en fait pas. On fait sur un autre Grand Prix.
Très chaud.
On l'a dit, Button a sans doute accompli un pas de plus vers le titre. Oui, et on peut déjà, on en a d'ailleurs parlé dans les classements, commencer à faire des scénarios de possibles chances de titre dès le Japon. D'accord? Donc, il faut savoir que sur 24 Grands Prix du Japon qui ont été organisés, 11 ont sacré un champion du monde.
Oui.
Soit 46% des courses qui ont eu lieu au Japon ont titré un pilote.
Oui.
D'accord, pilote.
D'accord, un pilote. Voilà. Le Brésil, quant à lui, n'en a titré que 11% sur tous ses Grands Prix. Mm-hmm. D'accord. Un Grand Prix du Brésil sur 10 a titré un pilote. C'est les 4 derniers.
Ouais.
D'accord. Donc, il y a quand même plus de chances mathématiquement pour que Button soit titré au Japon qu'au Brésil.
Statistiquement, pas mathématiquement.
Ouais. Statistiquement, on est bien d'accord, statistiquement.
Ouais.
Ma question, c'est quels sont les autres pilotes qui ont été titrés au Japon?
Shumi,
en quelle année?
En 2000.
En 2000, autres, oui.
Akinen, 99.
Alors, Shumi en 2000 et 2003.
Oui,
bien sûr. En 2003, il devait se contenter de marquer un.
Oui. 99, Akinen.
Ouais. 98 également pour Akinen.
Aussi, oui. Villeneuve, 97, c'était à Jerez, donc c'est pas ça. 96, Hill.
Oui.
95, Schumi, non. 94, c'était Australie. 93, Prost, non, c'était au Portugal. 92, Mansell, c'était beaucoup plus tôt, c'était en Hongrie. 91,
Il est impressionnant.
91, Senna. En 89, Senna, c'est sûr. En 80...
Je vais
89, c'est Prost, pardon.
C'est 88, Senna?
Oui, 88, Senna. 87, Piquet, je pense, face à Mansell, c'est en Australie.
Attends. Senna, il a été titré, c'est trois fois, il a été titré au Japon.
Ouais, tout à fait.
Les trois fois où il a été titré, c'était au Japon.
Ouais.
Vous avez parlé de 89?
89, c'est 88. Prost. 89, c'est Prost.
89 aussi, Prost a été titré au Japon.
Oui.
Ouais.
88.
J'ai parlé de Piquet.
87. Piquet, je pense que c'est en Australie, non, que Mansell a eu son accident.
Oui, mais,
Sacré Piquet.
Oui, mais il a été sacré au Japon.
D'accord.
Voilà. Et un dernier?
Alors, 86. 86, c'était qui? C'était Prost. C'était Japon aussi, mais ça on l'a déjà dit.
86, c'est Australie.
Ah, d'accord. Oui, exact. 80, peut-être Loda, 84?
84, c'était au Portugal. D'accord. Lors du dernier Grand Prix.
Pouh, ça monte dans 83, Piquet, on l'a déjà dit. Keke Rosberg, peut-être, alors, 82?
Non.
80.
Aux États-Unis en 82.
Bon, 80, c'est Alan Jones, je sais pas où c'était.
81, c'était aux États-Unis encore, lors du dernier Grand Prix.
80, je te dis.
80, c'était le Canada, deux grands prix avant la fin.
79, Johnny Scheckter, je pense pas. C'était en Italie, je pense.
C'était en Italie à trois grands prix de la fin.
78, Andretti, Ah, c'est James Hunt, non?
Oui, 76.
Voilà. À Fuji.
En 76 à Fuji,
voilà.
Ah ouais.
Alors, le fameux Grand Prix où...
Putain, je suis pas mauvais, hein.
Ouais, non, c'est bien. Alors, il y avait un piège. On aurait pu tenter de dire 2006.
Bah non.
Parce que soir du Grand Prix du Japon 2006, il restait un Grand Prix. Et Alonso possédait tout rond, 10 points d'avance sur Schumacher. Mais le truc, c'est qu'ils étaient à 7 victoires.
Partout. Ah ouais, donc... Ouais, potentiellement.
Donc Schumacher pouvait encore être titré au bénéfice du plus grand nombre de victoires au Brésil, ce qui n'aura pas été le cas.
Et les secondes places? Dans ce cas-là, c'est ce qui aurait joué? Non.
Fallait impérativement que Schumacher gagne. C'est d'ailleurs ce qui rendait le scénario intéressant, c'est qu'il fallait impérativement que Schumi gagne, qu'Alonso ne marque aucun point, et que en gagnant, Schumi automatiquement devenait champion. Donc Schumi, lui, son seul but, c'était de gagner. Donc maintenant, j'ai une deuxième question. Vous savez quel Grand Prix sera le Grand Prix du Japon cette année?
L'avant-avant-dernier.
L'avant-avant-dernier. Ouais. Donc ma question est toute simple. Hein. Donc Button pourrait être titré 3 courses avant la fin de saison, comme 24% des champions du monde.
Ah, quand même.
Contre 19% seulement lors du deuxième Grand Prix avant la fin. Ce qui continue à aller dans le sens. Voilà, ce qui continue à aller dans le sens que Button a plus de chances statistiquement d'être titré au Japon qu'au Brésil. Vous voyez où je veux en venir. Même si j'y crois pas. Hein. Ouais. Donc, quand même, 42% des champions ont été titrés lors de la dernière course. Jusque-là, pas de problème. Mm-hmm. Mais qui est le dernier pilote à avoir été titré à 3 courses avant la fin de saison?
3 courses pile.
Prost.
Non. Alors, Prost, oui, il a été en 93
et 85. Schumi en 2004 ou 2002, c'était tôt.
C'était bien avant, ouais.
Je pense que c'était bien avant.
Schumi, il a été titré une fois en Hongrie, une fois en France et une fois en Belgique.
Alonso 2005?
Non, dernière
fois. Oui, Alonso 2005. Ah bon, oui, en 2005,
oui,
il a été titré 3 courses avant la fin. C'était, je crois d'ailleurs, de mémoire, en regardant ma feuille, c'était le Brésil.
Déjà?
Ouais. Il avait été titré 3 courses avant la fin. Et Renault avait été titré la course d'après. Donc, Alonso est le dernier. Donc, c'est bien, les garçons. Vous serez pas aussi bon que moi. Vous serez encore meilleur. Est-ce que vous êtes capable de me dire les autres qui ont été titrés à 3 courses avant la fin? Donc, j'avais dit Alonso, Schumacher en 95. Prost en 93, 85.
Eh ben, j'avais dit Prost, ouais. Après, Mansell, c'était Hongrie. À mon avis, c'était bien avant.
Bien avant.
Avant les années 80?
Avant les années 80.
Avant les années 70?
Oh, il y en a eu quelques-uns dans les années 70. Il y en a même eu, attendez, 1, 2, 3, 4 dans les années 70.
Fittipaldi.
Même 5. Alors oui, Fittipaldi en 72.
Stewart.
En 73.
Jochen Rindt.
Non. Rindt, il a été titré 2 courses avant la fin. À titre posthume.
Oui, le seul.
Un champion que tu devrais connaître, Enzo.
Ah bon?
Andretti.
Il y a même plusieurs. Alors, Andretti 78.
D'accord.
Je dis Scheckter.
79 en Italie, à trois courses de la fin.
Et puis... Loda peut-être dans le tas.
En 77. Parfait. Bah, oui. Et avant ça, dans les années 60 et dans les années 50, il y en a eu trois autres.
Clark. Brabham.
Brabham en 66 et 60. Et les deux derniers sont fastoches.
Fangio et Farina.
Pas Farina.
Ascari.
Ascari 52, Fangio 54 et 57. Bah, messieurs, vous êtes très bons quand même. Juste comme ça, par curiosité, le Japon, c'est le pays, donc je vous ai dit, 11 fois, 11 courses au Japon ont titré un champion. Elle partage ce record avec un autre pays, lequel?
Australie? Brésil? Non.
Non, on a dit que non.
Non, le Brésil, c'est seulement 4 fois.
L'Italie.
Ouais. L'Italie, hein.
Ah.
Dans le classement, c'est 11-11 pour l'Italie et le Japon. États-Unis 6 fois, Brésil 4 fois. Et tu disais Australie, Shinji, c'était seulement 2 fois. Voilà. On passe à la suite. Donc, c'est la rubrique des drive-thru. Et les drive-thru, comme vous le savez, j'ai un petit...
Jingle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, messieurs, qui veut commencer? Qui en a un, qui n'en a pas? Qui...
Moi, j'en ai un.
Enzo, t'en as un?
Bon, bien sûr.
Ah.
Plusieurs.
Allez, Enzo, tiens.
Ben, j'hésite. Entre plusieurs. Le premier, on en a déjà parlé, c'est sur le circuit.
Ouais.
Donc, on va pas en parler. Que je trouve chier. Non, l'autre, c'est sur Sutil.
Sur Sutil? Ouais.
Lors de son tête à queue, moi je trouve son... Bah, le fait qu'il ait tout de suite essayé de se remettre dans le sens sans faire attention et qu'il se soit pris Hedfeld, c'était assez dangereux ce qu'il a fait. Je sais pas ce que ça a donné l'investigation des commissaires.
Il a une pénalité, je crois, une réprimande. Il a juste une réprimande.
Mais moi j'ai trouvé ça très très dangereux quoi.
Bah ce qu'ils expliquaient pendant la retransmission, c'était que comme les virages sont en aveugle, ils voulaient se dégager le plus vite possible du virage.
Je pense que là quand même.
Mais voilà,
il n'était pas à cet endroit là. Hein.
Shinji, tu veux le faire tout de suite ou le garder pour la fin ton drive through?
Non, je peux le faire tout de suite.
Bah vas-y, fais-le tout de suite dans ce cas-là.
Alors c'est la piste, mais c'est pas la piste en elle-même. C'est plutôt
la piste. C'est pas la piste.
Non, c'est sur sa sécurité, sur les accès pistes.
Ouais.
Pour une piste, je me rappelle bien, ils avaient dit que notamment ils avaient fait appel au commissaire de Monaco.
Oui, et puis là, c'est les commissaires d'Australie qui sont là.
Australie qui sont aussi quand même réputés pour être bons. Et on a quand même vu, si vous savez, c'est un drapeau jaune qui a duré facilement 10 bonnes minutes. Alors, je vais pas blâmer les commissaires parce que bon, je me doute que... on peut comprendre qu'ils aient pas envie de risquer leur vie à aller chercher une pièce alors que les voitures roulent à pleine vitesse.
Ouais.
Hein? Mais ça a duré près de 10 minutes pour une simple toute petite pièce d'aileron. Moncey a même dit un moment, il envisageait même l'idée qu'on ait le drapeau jaune toute la course.
Oui.
Parce que le commissaire voulait pas approcher. Et apparemment, donc parce qu'il faut des entrées pour que les commissaires puissent aller chercher les pièces, ils sont très espacées, très étroites. Moncey l'a fait remarquer, apparemment, c'est un circuit qui est très fermé. Puisque même les photographes ont beaucoup de mal à bosser à Singapour, parce qu'il y a d'énormes grillages. Et donc voilà, c'est quand même très dommageable. C'est un circuit en ville. Un circuit en ville a besoin d'une sécurité maximale. C'est ce qui fait notamment la réputation de Monaco, et c'est vraiment dommage.
Et c'est ça le truc, c'est que quand on regarde à Monaco, il n'y a pas de grillage comme ça.
C'est vrai, il n'y a pas de grillage.
Pourtant, il y a des sorties de piste, mais il n'y a pas de mort. Est-ce qu'ils sont obligés de nous mettre des grillages comme ça tout du long?
Alors, Moncey évoquait le fait, apparemment, les organisateurs ont une trouille, c'est l'envahissement de la piste.
Ouais. En même temps, envahir une piste en ville,
oui.
Vu la population qu'il doit y avoir aux alentours de la piste, c'est pas non plus, c'est pas Monza, quoi.
Ah bah, il y a plus de monde encore.
Oui, il y a plus de monde, mais c'est pas un envahissement, enfin, c'est pas des foules complètes qui sont dans des virages, quoi. C'est une foule beaucoup plus dispersée, peut-être plus nombreuse, mais plus dispersée sur le circuit. C'est limite des gens, tu vois circuler autour du circuit, donc c'est...
Et puis même sans grillage, il y a quand même une certaine distance, hein. C'est pas non plus comme s'ils étaient collés à la piste, hein.
Ouais, voilà. Donc, moi, c'est vrai que c'est grillage, moi. C'est un peu le côté qu'on disait très claustrophobique du circuit de Valence avec ses grillages et tout.
Là encore, on s'en rend moins compte parce qu'il fait nuit.
Ouais, voilà. Donc, moi, mon drive-thru, c'est contre la FIA.
Tiens, ça change.
Voilà. Alors, c'est pas contre la FIA, c'est contre les commissaires de piste. Parce que, personnellement, je les ai trouvés un peu sévères sur, même beaucoup sévères sur Rosberg.
Non.
Alors, oui, effectivement, il fait une erreur, etc. Maintenant, on a vu plusieurs pilotes manquer de sortir à cet endroit-là. Je continue à penser, effectivement, que c'est un endroit très glissant, où sur lequel la poussière se redépose constamment, et que, effectivement, c'est pas non plus un endroit où les pilotes, même s'ils sont passés régulièrement pendant tout le week-end, c'est pas un endroit où, dans le rythme de la course, les pilotes font forcément le plus attention, c'est la sortie des stands. Moi, je dis qu'il y a un règlement, il y a l'esprit et la lettre. Et effectivement, que le règlement de ne pas dépasser la ligne blanche, c'est bien dans la lettre. Effectivement, un pilote qui dépasse volontairement la ligne blanche pour tout de suite se remettre dans la trajectoire, etc., c'est pas normal. Mais là, quand même, Rosberg sort, il fait une boulette. C'est de sa faute. Il fait une boulette, c'est de sa faute. Il y a pas de problème. Je lui attribue des circonstances atténuantes, mais il fait une boulette. Mais quand même, il fait l'effort, en perdant du temps, il fait l'effort de revenir dans la pit lane, pour ensuite se remettre correctement dans la trajectoire. Donc c'est pas une sortie volontaire. Il le fait pas volontairement de se mettre en dehors. Et donc là on applique bêtement une sanction, alors que franchement dans l'esprit, je la trouve franchement très sévère cette pénalité, parce que il voulait pas sortir, il s'est planté, il s'est gaufré, ça arrive, il s'est remis dans l'axe.
D'accord.
Voilà.
Alors admettons maintenant que il n'ait pas eu de pénalité, puis devant il y a eu des assistants de course, il gagne la course.
Oui.
Quelle valeur elle a, sa victoire?
Bah, elle a la valeur de toute victoire qui est remportée par un pilote.
Sachant que là, les commissaires ont été exigeants, ont été tolérants. Non, on n'est pas. Justement, on a suffisamment râlé quand justement il y avait deux poids deux mesures des fois. Là, je pense que la ligne blanche, que ce soit comme Badoer, il a fait à Valence où il l'a à peine mordu, il a eu un drive through. Là, il l'a franchement dépassé. Mais il a un drive through. Je suis d'accord.
À Valence, si je me trompe pas, on était tous d'accord pour dire que c'était dégueulasse de faire ça à Badoer, que c'était surtout un truc de la part des commissaires de dire, vous voyez, on tape aussi Ferrari, et on était bien d'accord là-dessus. Et je trouve, honnêtement, alors que le mec, il est en tête de la course. Et même au-delà même de ce principe-là, c'est tout simplement, voilà, il y a un règlement, on n'est pas obligé non plus. Pendant longtemps, il y a encore un exemple là, puis il y a encore une dizaine d'années, il y avait encore une loi en France qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. C'est comme si on disait, voilà, on prenait une bonne femme dans la rue et on lui disait, voilà, bah maintenant vous portez un pantalon, c'est interdit, vous faites de la prison. Il y a un règlement qui doit être appliqué dans certaines circonstances, qui doit être appliqué dans un contexte. Il y a un règlement qui est fait dans un contexte. Tout comme il y a des lois qui sont faites dans un contexte et qui ne se justifient pas dans un autre contexte. Là, personnellement, je trouve...
Ta comparaison, elle est à chier.
Non, il y a des lois comme ça. Il y a tout un tas de lois qui ont été faites dans des contextes et qui, dans d'autres contextes, ne s'appliquent plus parce qu'elles sont dépassées ou parce qu'elles sont déviées de leur sens, etc.
Oui, mais cette loi, elle n'est pas dépassée.
Et non, oui, pour moi, elle est dépassée. Enfin, c'est pas qu'elle est dépassée en tant que telle, mais c'est-à-dire que cette loi-là, pourquoi elle a été faite? C'est pour éviter qu'un pilote se remette volontairement dans la trajectoire, gagne du temps ou recommence à rejouer sa place.
Mais voilà. Oui, parce que ça peut être dangereux à partir du moment où il est sorti, c'est qu'il allait trop
d'accord, vite. On est bien d'accord que ça peut être dangereux, etc. La sortie, elle n'est pas volontaire, c'est pas une intention volontaire pour lui de sortir.
Bien sûr que c'est pas volontaire, mais on se doute bien.
Donc voilà.
De la même façon que Vettel quand il est au stand et qu'il fait un 1,3 km/h supérieur, bien sûr que c'est pas volontaire. Mais bon, il y a un règlement, c'est comme ça. Et Nick Enfeld, il avait pas le poids, il se fait pénaliser.
Tu peux pas comparer. Non, je suis désolé, tu peux pas comparer Nick Enfeld qui a pas le poids parce que sans doute on a grugé sa voiture à un truc dans le genre et comparer Rosberg qui sort d'une ligne blanche, qui se remet dans l'axe juste parce qu'il fait une erreur. Tu disais tout à l'heure, il y a deux poids, deux mesures. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'on
On râlait parce qu'il y avait deux poids, deux mesures.
Voilà. Mais là, c'est pas une question de deux poids, deux mesures, c'est tout simplement une question d'une application intelligente, réfléchie du règlement. Là, ils ont tout simplement regardé le règlement. Ah ben, il a dépassé la ligne blanche. Ah ben, dans le règlement, il y a écrit dépasser la ligne blanche. Eh ben, c'est un drive-through. Ben voilà, on met un drive-through. Il y a aucune réflexion sur quelles sont les intentions du pilote derrière et sur ce qu'il a fait. Donc, je suis bien d'accord, effectivement, il y a un règlement, faut l'appliquer. Très bien.
Le jour où...
Tu peux pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c'est quand dans une même situation, on juge un tel d'une manière, un tel de l'autre.
Non, mais justement.
Là, moi,
Je t'ai dit que
tu prends Rosberg, n'importe quel pilote, dans les circonstances identiques, où c'est effectivement, bah voilà, il roule.
Tu n'écoutes pas ce qu'on dit.
Non, mais je veux d'abord finir ce que j'ai à dire. Un pilote qui roule, qui fait une erreur et qui voilà dépasse la ligne, tout comme l'a fait Badoer parce qu'il voulait laisser passer un autre pilote et donc il a un poil mordu sur la ligne. Il y a un esprit, il y a une règle. Là, le mec, il avait pas l'intention de déborder la ligne. Voilà, et c'est ça, je trouve, la gestion n'est pas intelligente. Après, oui, effectivement, on applique le règlement à la lettre, bêtement, très bien. Je m'y fais. Je trouve juste ça con. Voilà, c'est pas dans mes valeurs personnelles. Personnellement, quand je regarde une loi ou que moi je travaille dans une école, j'ai un règlement intérieur avec les élèves, etc. Dans mon lieu de travail, j'ai instauré avec les élèves des règles qu'ils doivent suivre et je pénalise effectivement seulement si j'estime qu'il y a une entrave volontaire de la part des gamins aux règles qu'on s'est fixées ensemble. Si c'est pas une entrave volontaire, bon bah je le pénalise pas. Je comprends que c'était pas volontaire. Donc c'est ça, j'appelle ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a un mauvais ressentiment envers la FIA, c'est que par moment, elle manque un peu d'humanité dans sa gestion des choses. Et je pense que là, il pouvait très bien avoir pas un peu d'humanité pour Rosberg, mais dans cette situation-là, voilà, on pénalise pas parce qu'il n'y a pas intention volontaire du pilote. C'est tout ce que je dis. Je remets pas en cause le règlement. Ni, ils veulent l'appliquer strictement, ils l'appliquent strictement. Mais dans ce cas-là, justement, pour éviter qu'il y ait deux poids deux mesures, faut le faire à tout le monde. Mais comme de toute façon, on a une FIA qui n'est pas on a des commissaires qui ne sont pas intelligents, qui l'ont prouvé à plusieurs reprises. Je ne m'attendais pas non plus à grand chose de leur part, mais je trouve juste ça dégueulasse. Voilà.
Merci pour ces 5 minutes de monologue.
Mais non, mais c'est je pense que c'est un monologue argumenté. Tu te fous de ma gueule sur le monologue, mais je pense que c'est un monologue. Pour une fois, je sors un drive fou que j'argumente et que voilà, je me base sur une argumentation personnelle. Donc voilà. Après, t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi, mais voilà.
On peut même pas. En plus, tu as déformé ce que j'ai dit, mais c'est pas grave.
Vas-y.
Non. Il est déjà minuit. J'ai pas envie. j'ai pas envie.
Donc voilà. Ok. Donc avant goût du Grand Prix de Singapour. Vos pronos du
oui.
Du Grand Prix du Japon. Bon bah je vais dire Button. Je vois que personne se prononce ou que tout le monde dort.
Non, je réfléchis. Barrichello.
Barrichello.
Pareil.
Non, t'as pas le droit.
Ah bah moi je pensais Barrichello déjà avant.
Ah bah ouais, mais fallait le dire plus vite. Dommage.
Grosjean alors.
T'es sûr de Grosjean?
Non, mais bon, puisque j'ai pas le droit de dire ce que je voulais dire.
Non, mais depuis le début de saison, on fait pas tous les mêmes, on s'arrange pour pas pronostiquer les mêmes.
Ok, physique là.
Pourquoi pas?
Oui, non, mais je le prends sérieusement parce que c'est une Ferrari.
Hey.
Voilà, je n'y crois pas une seule seconde, mais
ça te regarde.
Ah oui, non,
mais de la même façon que je crois pas qu'on devait être un jeu avec Rosberg.
Ce qui est dommage, c'est que t'as pas voulu réexpliquer tes arguments, mais c'est ça. Donc, le concours top opposition. Et avant de commencer le concours top opposition, je voudrais revenir sur une affaire qui a troublé le SAV de la F1.
Ah?
Une affaire connue sous le nom de Enzo Gate. Le concours top opposition Gate. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur notre site, le www.savf1.fr.nf. Au point que nous avons une association des auditeurs qui a été formée, et au point que cette association se soit réunie cette semaine en séance plénière et nous ait fait part d'un communiqué que je me propose de vous lire et que vous trouverez en téléchargement sur le site. Hein. Donc je vous lis le communiqué. Enzo, écoute bien, ça te concerne.
C'est un truc que t'as fait ou ?
C'est un truc que j'ai reçu de la part des auditeurs.
Non, je n'en crois pas une seconde. Je n'en crois pas une seconde.
Je te jure, c'est un truc de la part de Stéphane, qui est ton grand copain, tu le sais. Donc, Conseil mondial de la fauteuil grec. La fauteuil grec, la fédération des auditeurs avec un O, du truc audio de Yannick, exprime aujourd'hui sa préoccupation quant à la décision prise par Monsieur Enzo Briatore lors du SAV de la F1 du Grand Prix d'Italie et du concours Top Position. Son choix de réponse arbitraire et inique, pris sans concertation et au détriment d'auditeurs fidèles, est une atteinte flagrante à l'objectivité professionnelle du SAV de la F1, ce qui génère une publicité négative et discrédite le SAV de la F1.
Qu'on m'exclue à vie alors.
La fauteuil grecque considère que dorénavant le choix des questions doit être effectué de telle façon qu'il soit impossible de fournir différentes réponses. Cela dans un but d'honnêteté et d'endiguer ainsi les futures décisions totalitaires de Monsieur Enzo Briatore. Nous souhaitons, nous, la fauteuil grecque, un règlement amiable sur le sujet suspensionné et espérons une collaboration riche et fructueuse entre nos deux parties pour le futur. Cordialement, le Conseil mondial de la fauteuil grecque.
Je voudrais un droit de réponse.
Alors, en tant que juriste...
Non, mais je veux un droit de réponse, déjà.
Tu bénéficies d'un droit de réponse.
Après, je vous laisserai vous exprimer, mais mon droit de réponse, c'est que si vraiment je voulais être honnête, je ferais pas une émission avec Yannick.
Oh, le salaud.
Parce que dans la série Mauvaise foi, il n'y a pas mieux.
Oh, le coup bas. Alors ça, c'est Monsieur Enzo qui à chaque fois renvoie la faute sur les autres. Voilà, c'est pas ma faute, sur les autres. La dernière fois, je sais plus ce que je lui fais, il tape sur Shinji.
Et je renvoie rien sur les autres, je réponds simplement à ce qu'on me reproche.
De toute façon, il y a vice de forme.
Pourquoi?
Parce qu'il parle d'objectivité du SAV.
Ah oui, effectivement. Quand je pense que je m'étais dit avant l'émission, quand j'ai lu le communiqué, je fais non. Je vais défendre mon pote. Je vais défendre Enzo. Je peux pas le laisser comme ça dans le Enzo Gate, dans le Top Opposition Gate.
Et ben, le mieux c'est que vous m'excluiez à vie. Hein.
Et alors tu vois, je vais demander aux auditeurs de bien vouloir m'accepter au sein de la fauteuil grecque. Je me désolidarise complètement des propos de Monsieur Enzo Briatore. Moi, Yannick et Clustone, je me désolidarise. C'est mon ami. Je lui suis d'un soutien complet. Je pense d'ailleurs que tu peux faire appel si tu veux, Enzo. Mais je me désolidarise.
Je ne fais pas appel. Je revendique.
Tu plaides coupable.
Complètement.
Donc va falloir. Alors par contre, ils veulent qu'on arrange ça à l'amiable.
Bah, on va faire comme Renault.
Bah, qu'on me retire ma rubrique.
Non, tu l'aimes bien ta rubrique.
On va te mettre un sursis.
Voilà, on va te mettre au sursis. Tu as un sursis de une semaine.
Voilà.
Jusqu'au prochain Grand Prix. Tu n'as pas le droit de faire de proposition qui.
Je vais être obligé de changer ma question exprès.
Ah, la vache.
Pour qu'elle soit justement encore plus sujet à caution.
Ah, parce qu'elle doit déjà l'être, apparemment. Donc, la question de la semaine dernière, c'était quoi, Shinji?
Dans quel virage est sorti Lewis Hamilton dans le tout dernier tour?
Et la réponse était?
C'était l'ESMO. Alors, est-ce que c'est le.
L'ESMO
2.
L'ESMO 2.
Ah, c'est entre l'ESMO 1 et l'ESMO 2, je crois, non?
Non, c'est l'ESMO 2.
C'est l'ESMO 2.
Voilà, l'ESMO 2. On ne tolérera pas ceux qui n'ont pas répondu l'ESMO 1 ou l'ESMO tout court. C'est l'ESMO 2, la bonne réponse.
Eh bien, tout le monde a répondu l'ESMO 2. Vous avez vu, auditeur, comment je
vous dis? Bah, voilà.
Non, c'est pas vrai, ça se trouve.
Oui, c'est vrai.
Non.
Je ne te fais pas confiance. Tu fais partie de la faute à Y.
va falloir que tu me crois.
Je ne peux pas.
Ah non, il y a quelqu'un qui a écrit la prima curva di l'ESMO. Écoute,
attention, le CMSAV t'a déjà mis un sursis d'une semaine.
Voilà, attention, tu pourrais avoir un sursis de 2 heures en plus. Hein.
Ouais.
J'ai pas peur.
Avec exclusion de pendant 3 jours, méfie-toi. Obligation d'animer une émission pendant 5 heures. Ah, tu vas te marrer, hein. Ah voilà, alors ça c'est le truc, voilà. Vlad vraie peine, Shinji. On est d'accord, on se met d'accord. Si Enzo, d'ici la fin de saison, tu nous refais une question tendancieuse qui pourrait supporter plusieurs réponses, tu es dans l'obligation d'animer du début à la fin l'une des émissions.
Bah ça reviendra à celle que tu fais tout seul.
Oui.
C'est bien parce que je pourrais défendre mes drive-thru pendant 5 minutes sans être contredit.
Mais rien ne vous empêche, vous, de défendre vos drive-thru pendant 5 minutes.
Non, nous on écoute quand même ce que les autres pensent.
Mais moi aussi j'écoute. Moi aussi j'écoute. Mais j'aime bien me faire comprendre.
Ouais, là t'as pas écouté.
Voilà.
C'est pas grave.
Ah non, mais j'ai écouté.
Non, t'as pas écouté.
Donc, alors, les bonnes réponses concernant cette question. Nous avons Maël, Stéphane, Oscar, Bertaio et Globen. Donc, j'ai créé des chiffres en dessous de chaque prénom. Alors, vous avez le choix entre le 11, le 14, le 17, le 27 et le 43.
A-t-il vous voir ?
Le 21 ?
Le 21, alors... Non, j'ai pas le 21.
Tu devrais avoir le 21.
J'ai le 11, j'ai le 14, le 17, le 27 et le 43.
Le 27, ça vous ferait trop plaisir à vous, ferrariste. Le 11.
Le 11, et c'est... Non, mais non, ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. C'est Globen qui gagne un magnète. Le magnète du Grand Prix d'Italie. Mais bien sûr, il y a un autre magnète en jeu. Le magnète du concours top opposition du Grand Prix de Singapour qui vous est présenté par Enzo.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top opposition présenté par Enzo. Heureusement qu'on coupe au montage, sinon ça serait aussi long qu'un tour de Lucas Badoer.
Vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix de Singapour. Participez maintenant au concours Top Opposition pour gagner un magnifique magnète. Quel célèbre groupe de rock a offert une guitare à Sébastien Vettel? Répondez à cette question en utilisant le formulaire contact sur le site du SAV www.savf1.fr.nf. À la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon.
Donc voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le SAV du Grand Prix du Japon avec peut-être un nouveau champion du monde, mais on ne sait pas.
La magnète est déjà prête en tout cas.
Préparez le café hein, parce que c'est à 7h du matin.
Oui, hein, là par contre, là faut vous réveiller tôt. C'est pas comme à Singapour. Donc voilà, bon Grand Prix à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Salut.
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 Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.